tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café 2024!
Bruit de champagne!
Pop! Champagne!
Oh yeah!
Clic, clic. Oh yeah! Champagne!
Feu d'artifice!
Oh wow, c'est fun! On est revenu!
Eh oui!
On était en février!
Les gens qui pensaient que 2024 was the year sans ces deux fatigantes-là... Sorry.
Non! malheureusement, on existe encore.
Et aujourd'hui... Comme l'amour, on existe encore.
Oui. De Natacha Saint-Pierre. C'est Natacha Saint-Pierre.
Non, c'est Céline.
Quoi?
Ben oui, c'est Céline Dion.
Ben non.
Ben oui.
Ben non.
Ben oui.
Ben non.
Ben oui. C'est une des grosses, tunes.
L'amour existe. Moi, je pensais que c'était Martine Chose ou Natacha Saint-Pierre. De qui
chanson
je parle, Martine?
De
ben voyons donc. Mais j'aime pas ça. Ça, je veux dire, unpopular opinion pour commencer
c'est
avec
une chanson
tangente.
De Plamondon.
Mais ça me dérange pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien de la misère avec Céline parce que je sais, c'est sacrilège. Okay? On peut pas dire qu'on a de la misère avec Céline parce qu'elle fait juste des chansons d'amour. Puis je peux pas écouter ça puis pas penser à René Angélil. Puis ça me rend mal à l'aise.
J'avoue que j'aime pas ça penser à René Angélil.
En général, mais tu sais, t'écoutes une affaire comme ça ou comme l'autre chanson pour que tu m'aimes encore.
J'avais ou The Power of Love.
Ou The Power of Love. Ou son cover de Roy Orbison. I drove on it. Là, tu penses à René Angélil.
Ouais.
Avec sa petite couette maigre, là, pis comme. Sa voix comme ça. Ses lunettes de soleil. Pis tout.
Son gambling.
Pis sa différence d'âge avec Céline. Ce n'est pas romantique pour une scène, finalement. J'aurais préféré que ce soit un Martine Chose, dont j'avais oublié le nom.
Martine Saint-Pierre.
Saint-Clair.
Saint-Clair.
Saint-Clair. Natacha Saint-Pierre. Voilà.
Natacha Saint-Pierre. Martine
OK.
Saint-Clair.
Assez de tangente. Bienvenue à Un peu de crime dans ton
les gens sont comme, oh my God.
Oh my God.
Elles ne s'assagissent pas.
Ces deux femmes ne connaissent pas la musique québécoise. Non, c'est juste moi. Alors aujourd'hui, on parle d'un crime qu'il y avait dans Allô Police.
Exactement.
Allô.
Allô, la police.
Combien de fois vais-je chanter « Bonjour la police » ?
C'est un défi pour 2024.
Ouais. Mais aujourd'hui...
2024 is the year.
Je vais essayer de chanter au moins une fois, ou ne serait-ce que comme les petites notes au début.
C'est correct, ça.
Oui, parfait. Donc, on va faire ça. Mais avant, ouais, tu vas nous parler d'un café très spécial.
Ouais.
Parce que tu l'as reçu à ta fête.
En cadeau.
En cadeau.
De ma maman.
Puis, il n'y a rien de mieux que le café que tu reçois en cadeau dans la vie.
En effet, ça goûte l'amour.
C'est vrai, ça.
Alors?
Est-ce qu'on peut nommer ta maman?
Ben, c'est...
Ou tu préfères qu'elle garde l'anonymat?
C'est maman de Audrey.
L'anonymat!
L'anonymat!
Je suis rendue tellement bonne dans mes jeux de mots.
Ben non, c'est les personnages de Un peu de crime dans ton café. Ton père.
Ah, mon père!
Qui demande quel est le crime.
Oui, puis ta mère.
Qui donne du café.
Qui donne... Ben, c'est bon, ça.
Fait que... Ma très chère maman, qui est maintenant une grande amie de Éric Bruno.
Oh mon Dieu, c'est vrai! Elle l'a rencontrée sur un court de pickleball.
Exactement!
C'est toute une anecdote. Quand... Puis c'est vrai! On vous jure, c'est arrivé pour de vrai.
Oui, oui, oui.
Oui, puis il a dit qu'il allait venir à notre podcast si on appelait son agent. Avons-nous appelé son agent?
On est des millénials.
Oui. On ne fait pas ça à appeler du monde. Avons-nous peur? Oui.
Oui.
Aussi.
Très.
Mm-hmm.
Alors,
qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour le rencontrer?
Nos plus beaux atours.
J'aimerais un pyjama à pattes. Mais je n'en possède pas. Donc, tant que je n'ai pas de pyjama à pattes,
ben,
je ne peux pas rencontrer Éric Bruno.
T'es le mien.
Ah, oh, t'en as un, toi?
Ah oh non, mais c'est vrai, il n'y a pas de pattes. C'est un... Tu sais, les gros pyjamas que t'es comme un animal. Là.
Oui.
Je vous laisse deviner que je suis une chauve-souris.
Mais il n'y a pas de pattes?
Non.
Mais ça a des pattes, les chauves-souris?
Mais y a,
c'est comme une chauve-souris avec des pieds d'humain.
Mais il y a une flap sur les foufounes. Pour ouvrir les foufounes pour aller aux toilettes.
Toujours!
Ou comme mon père appelle ça, avec ce terme très classe, oui, il appelle ça une dompeuse.
Moi, je pense que c'est peut-être un terme officiel et accepté par tous, mais qu'on connaissait pas. Bon, trêve de niaiserie.
Oui.
Oui.
3 heures plus tard, voici le café que ma maman m'a donné en cadeau.
Elle dans l'avait... son anonyme maman.
Voilà.
Voilà, fallait que je répète ma joke.
Elle l'avait acheté dans un marché de Noël.
Oui.
Et c'est un café du torréfacteur Mademoiselle Café, qui est un torréfacteur de Sainte-Julie. Alors, encore une fois, les gens sur la Rive-Sud, vous êtes favorisés parce qu'on vient de la Rive-Sud. Fait que c'est normal qu'on ait un peu plus de ce bord-là.
On est biaisés, oui.
On est un petit
Mais
peu biaisés, on
Mademoiselle
s'excuse.
Mademoiselle Café.
Oui.
je m'attendais à quelque chose de moins répétitif que juste... je sais pas.
Ben là...
je sais pas, Mademoiselle Caféinée. Je Mademoiselle Café, je trouve ça...
Ben, on garde ça simple.
Ah oui, ben c'est correct.
Simple, efficace.
Oui.
Merci. Le café que j'avais reçu, c'était, bon ben, c'était leur mélange spécial de Noël, c'était le Jingle Bell.
Tout le monde fait ça, un mélange spécial de Noël.
Oui, mais honnêtement, lui, je l'ai trouvé, il était pas tant Noël, parce que souvent, je trouve que les cafés de Noël, ils ont un petit peu trop comme des goûts de raisin ou de... parce qu'ils essayent de mettre le goût des gâteaux aux fruits dedans. Tandis que celui-là, il était beaucoup plus doux.
Ben, c'est bon, ça.
C'était... Alors, je vous lis sa description sur le site web. Mm-hmm. Le Jingle Bell est un café doux et délicat, parfait pour le réconfort lors d'une douce journée enneigée, chose qu'on n'a pas eue à Noël pantoute. Ce café vous fera découvrir les saveurs des caféiers du Costa Rica. De quoi vous mettre du soleil plein le cœur. Fais-je comme ça un café de Noël ou d'été?
Non, c'est les deux. C'est la toune de Compagnie Créole.
Ah!
Noël! Joyeux Noël! Tu me regardes comme si tu savais pas de quoi je parle. Bon baiser ça me de dit bord de France! Ce soir, on est à la télé. Je suis seule qui connaît cette chanson-là?
Ça me dit quelque chose, mais je peux pas t'accompagner. Mais c'est parce que je chantais...
Oh my God!
Je pensais que t'allais chanter du beau demain.
Non, non! La vraie chanson de Compagnie Créole! Mon Dieu! Je suis tombée à être décalée à soir.
La vraie chanson de la vraie... Non, je suis sûre que ça existe. Okay. J'ai pas été élevée à la Compagnie Créole.
Bon baiser de... Je suis sûre que je me trompe, pis c'est pas Port de France.
Mais
c'est...
ça doit être Port-au-Prince.
C'est Fort de France.
Ah!
C'est une vraie affaire! Regarde, bon, ben, c'est Fort de France, la Compagnie Créole. Bon, voilà.
C'est merveilleux.
Fort de France.
Fort de France.
Toi aussi, c'est une affaire qui est nommée un peu bizarrement. Ils auraient plus appelé ça oui. Port de France.
J'avoue qu'il y a moins de S. Moins de F.
Voilà. Donc.
Donc. C'était le café que je vous recommande.
Oui.
Le Mademoiselle Café, qui est un torréfacteur de Sainte-Julie.
Mm-hmm.
Le café, en tant que tel, c'est le Jingle Bell. Mais Noël est fini et ils ont d'autres sélections que vous pouvez vous procurer sur leur site web. Voilà.
Je pense que je devrais spécifier maintenant, puisque nous sommes presque à 8 minutes d'épisode puis que j'arrête pas de dire niaiserie, que c'est le soir.
Oui.
Alors, je suis plus tannante que d'habitude. Et je m'en excuse.
On a mangé du macaroni au fromage. On a les zoomies.
On a les zoomies. C'est les zoomies de la fatigue.
En plus, j'ai oublié
de l'énergie du désespoir.
J'ai oublié de te montrer le dessert que j'ai acheté.
T'as acheté un dessert?
Oui, je t'ai dit. Je vais acheter du dessert puis j'arrive chez vous après.
Oui, j'ai même pas eu conscience de ça. Que t'étais arrivée avec un dessert. Je suis fatiguée à ce point-là. Alors, parfait. Raconte-nous ton cas déprimant et on va se remonter le moral en mangeant un dessert.
Exactement.
Et en chantant bonjour la police.
Exactement. Alors, le cas que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, ça s'intitule « Le Fossoyeur de Shawinigan ».
Arc! J'aime déjà pas ça!
Alors, mes sources pour aujourd'hui, ce sont des articles du Allo Police, un article de Radio-Canada, et je vais devoir donner des « trigger warnings » pour féminicide, agression sexuelle, victime et « slut shaming ». Par contre, vous... connaissez notre manière de procéder, on ne va pas trop dans les détails et je vais vous avertir quand ça devient un peu plus intense. Et ce qui m'intéressait avec ce cas-là, c'est que je trouve qu'à la fin, on va pouvoir avoir une discussion sur cette question qu'on réentend souvent sur le true crime et l'éthique de consommer du true crime. On s'en reparle.
Ah non, j'aime pas ça avoir des discussions.
À la fin. Juste des mouvements avec mon corps.
C'est comme ça que je communique, par la danse contemporaine.
Exactement. Tout le monde aime ça.
Comme les... c'est-tu les abeilles qui communiquent par la danse?
Ouais.
Voilà.
Alors,
vas-y.
Je me fais aller les papates d'abeilles et je vais mettre un petit peu de crème dans ton café. Décaféiné, parce qu'il est tard. Partie 1. Gardienne demandée. Nous sommes le 7 août 1961.
Oh non.
À Shawinigan, Micheline Terrien travaille comme réceptionniste au bureau provincial de placement. Il est environ 14h30 quand elle reçoit un appel d'un certain Claude Marchand qui requiert les services d'une gardienne. Aussitôt, Micheline pense à sa jeune sœur, Denise. Âgée de 16 ans, Denise est étudiante et souhaite se trouver un emploi pour faire quelques sous. Elle a cependant du mal à se faire engager parce qu'elle a une santé assez délicate. Quand Micheline fait part de l'offre à sa sœur, celle-ci hésite. Micheline l'encourage à y penser, et quand Marchand rappelle au bureau quelques heures plus tard, Micheline l'informe que sa jeune sœur Denise serait intéressée par son offre. Enchantée, Marchand demande à ce que Denise vienne le rencontrer directement à son domicile le lendemain pour lui présenter sa femme et ses enfants. Oui.
Pourquoi il appelle là?
Parce qu'un bureau de placement, c'est où est-ce que tu mets des offres d'emploi?
Oh mon Dieu!
C'est comme des petites annonces classées. Non, c'est pas des placements comme un placement financier. Là.
Oui, j'étais comme, pourquoi il appelle là? Il connaît-tu Micheline Therrien? Ok, j'étais comme, pour...
Non, c'est pour placer des gens.
Oh, si, bolac.
C'est un bureau de l'emploi.
Ok, bon, c'est ça. Pas rapport avec la caisse de dépôt et de placement.
Non. Ah, ici, okay, c'est des gens qu'on place.
Un petit peu de compte. Mais t'appelles là-bas pour avoir une babysitter?
Ben, t'as pas pensé une petite annonce?
Comme ramasser le nom à quelqu'un sur une boîte à mal? Qui était comment on faisait ça dans mon temps?
Ah oh, ouais?
Ben oui, moi je mettais des annonces sur les boîtes aux lettres. Ah! Je vivais sur la Rive-Sud, là, fait que c'est les boîtes aux lettres, t'en as une par 3-4 rues, là.
Ah oh, oui.
C'est ça.
Mais non.
Non?
Non.
J'ai pas pensé au bureau
de placement. Mais il y avait pas d'imprimante dans ce temps-là.
Ah. Parce que c'était avant l'invention de la presse à Gutenberg.
Exactement. Ça fait longtemps.
Putain de merde.
La vérité, c'est que Denise n'est toujours pas convaincue que l'emploi l'intéresse. Monsieur Marchand habite à l'autre extrémité de la ville et elle ignore si sa santé lui permet de s'occuper de jeunes enfants. C'est cependant après une longue conversation avec Micheline que Denise se laisse convaincre d'au moins se rendre au rendez-vous fixé par Monsieur Marchand pour se faire une meilleure idée.
On sait-tu c'était quoi ses problèmes de santé?
Je pense qu'elle était juste assez chétive.
Ben,
elle était très, très, très petite.
Bon, tu peux t'occuper des enfants quand t'es chétif, là, c'est correct.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans la mentalité comme à l'époque victorienne. Là, comme, ah, sa femme va s'évanouir!
Oh non!
Comme,
Yves Pépeltier dans RBO. Il lui arrive souvent de perdre connaissance quand il vente trop fort.
Oui, exactement.
Okay. Ah, d'accord.
Les sœurs l'ignoraient encore. Mm-hmm. Mais Denise ne reviendrait jamais de ce rendez-vous. Le lendemain matin, Denise est nerveuse. C'est la première fois qu'elle offre ses services comme gardienne à un parfait inconnu. Question de faire bonne impression auprès de M. Marchand, Denise revêt sa robe préférée et emprunte un sac à main à Micheline, question de ne pas avoir l'air trop jeune. Question d'encourager Denise, Henri Therrien, son père, lui offre de se lever plus tôt pour aller la reconduire à son rendez-vous. Cependant, Henri tarde à se réveiller et comme Denise a peur d'arriver en retard chez M. Marchand, elle décide de prendre le bus toute seule. À 8h30, quand Micheline quitte elle-même le domicile familial pour aller travailler, elle aperçoit sa sœur qui attend patiemment le bus. Le chauffeur de bus, Jean-Guy Carignan, se rappelle de Denise car celle-ci lui a demandé s'il pouvait la déposer au lieu de son rendez-vous à quelques mètres d'un arrêt habituel desservi par le bus. Celui-ci accepte et dépose la jeune femme à proximité du motel Caribou et du cimetière Saint-Michel.
Je n'aime pas ça!
En passant, faites pas ça à Montréal, demandez un autre arrêt d'autobus, on va juste vous pousser en bas de l'autobus.
C'est possible.
Ouais,
on arrête direct au milieu du boulevard pour on pousse en bas.
Exactement.
Sur le terre-plein.
Fuck
de
you.
De préférence. Fuck you. Arrange-toi.
Arrange-toi avec tes drogues.
Voilà.
Partie 2.
On peut pas pousser les gens sur le terre-plein. Parce que la porte de l'autobus, elle est pas de ce côté-là.
C'est du côté du trottoir.
Oh, je suis pas allumée.
Partie 2. Où est Denise?
Mais pourquoi qu'elle le rencontre dans un motel? C'est bien weird. Tu sais, quand moi, là, j'ai une grande expérience de gardiennage d'enfants avec mon affaire de boîte à mal de tantôt. Ouais. Puis quand tu vas rencontrer la famille, tu vas dans la maison parce que tu rencontres les enfants.
Oh my God, how dare you percer des trous dans cette histoire?
Ah, excusez.
Qui fait comme full de sens.
Jusqu'à date, oui.
Non, non, ça va tout être expliqué tantôt, là.
Puis tu sais qu'on aime ça, rire des noms.
Oui.
Je trouve ça drôle s'appeler Henri Therrien. Ça fait trop de ré.
Puis il y a des pires noms que ça.
Il y a des vraiment
moi,
pires noms que ça.
Ça fait vraiment joueur de hockey des années 60.
Oh!
Henri Therrien!
Le numéro 57! Henri Therrien! Oui, oui! Oui, non, c'est vrai que ça fait ça.
Alors, avant de partir, Denise avait informé ses parents qu'elle serait de retour aux alentours de 16h. Or, quand 16h arrive et qu'on est sans nouvelles de Denise, la panique commence à s'emparer de la famille. Sans attendre, ceux-ci partent à sa recherche. Dans un premier temps, on tente de localiser ce fameux Claude Marchand qui avait appelé au bureau de placement pour quémander les services d'une gardienne. Les craintes des Therriens deviennent de plus en plus réelles quand ceux-ci apprennent que personne ne connaît de Claude Marchand qui habiterait à Shawinigan et qui aurait des enfants en âge de se faire garder. En plus, puisque ce supposé Monsieur Marchand s'est contenté de téléphoner au bureau de placement plutôt que de s'y rendre directement, Micheline ne connaît que sa voix et ne saurait le décrire à la police.
Oh, whoop! Oh, ça va pas bien.
Nope.
Ils vont-tu le trouver?
Le Claude Marchand?
Ouais.
On y arrive!
Est-ce que son nom est un anagramme de Claude Marchand? Il a juste comme réorganisé les lettres de son nom pour se trouver un pseudonyme?
Non, c'est pas à ce point-là.
Ah, OK.
Face à cette impasse, les Terriens se rabattent sur l'autre information dont ils disposent afin de retrouver Denise, le lieu du rendez-vous fixé par un homme mystérieux qui n'était définitivement pas Claude Marchand.
Ouais.
Quand les Terriens se rendent à l'adresse qui avait été fournie à Micheline et transmise à Denise, ils tombent nez à nez avec un chalet abandonné depuis longtemps. Selon les rares voisins du domicile, les propriétaires auraient toutefois pris soin de bien verrouiller les portes et les fenêtres avant de quitter. Ce qui est un détail intéressant. Moi aussi, quand je pars, je confirme à mes voisins que j'ai barré ma porte.
Que j'ai barré mes fenêtres.
Exactement. Pourquoi mon chat essaierait de se sauver?
Ça m'arrive toujours.
Ben oui.
Tu mets les petits bâtons en bois là, pour empêcher les fenêtres de slider.
Au revoir, voisin. J'ai barré mes portes.
Mm-hmm. J'ai barré la trappe à sécheuse.
Oh, wow!
Plus personne ne peut entrer ni sortir.
C'est fini! C'est à ce moment que la mère de Denise comprend que celle-ci s'est fait tendre un piège.
Mais là, yo, là, attends, t'as dit tantôt que le chauffeur d'autobus l'avait déposé à côté d'un cimetière pis d'un motel, il est où le chalet?
Il était de l'autre côté de la rue.
Le chauffeur d'autobus?
Il y a deux côtés de la rue!
Non, je... du côté qui avait pas la porte, il y avait le
oui,
chalet.
Ça.
Ok, oui. Non, mais le chauffeur d'autobus, il a pas fait comme... C'est pas une place pour un rendez-vous, ça?
Écoute, hey, il devait avoir au moins trois autres personnes à aller mener en quelque part, là.
Non, ben plus que ça, oui.
Les gens de Shawinigan vont être comme « Hey! »
Non, on aime ça, Shawinigan, parce que c'est là qu'il y a la brasserie, le trou du diable, placement de produit.
Exactement.
Plus mon chum travaille chez Molson, puis ça appartient à Molson.
Fait. Ouais, fait que t'es comme « Acheter de la
déformation professionnelle. » C'est bon, le trou du diable, sont bien fins là-bas. Miam, 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 slurp, slurp, slurp.
Par contre, la voisine du chalet où Denise se serait rendue raconte aux Terriens que quand son mari est décédé, le fossoyeur du cimetière situé à proximité du chalet, Marcel Bernier, lui aurait demandé si elle souhaitait lui vendre son chalet en échange pour un lot et une épitaphe pour son mari. Celle-ci aurait toutefois refusé cette offre franchement weird et digne de Skyrim. Est-ce que tu veux une pierre tombale en échange de ton chalet?
Tu as accepté le deal. Voilà. Mais
c'est moi, ben, c'est moi ben je prends vrai. Mes vacances d'été où?
Mais ça c'est pas tout proche de la même valeur qu'un chalet puis une pierre tombale et un trou dans la terre.
Tu peux chiller là l'été.
Mais je veux dire, il y a même pas le cercueil d'inclus là. C'est vraiment pas un bon deal.
C'est un lot et une pierre tombale.
Ben c'est ça.
Pas le cercueil. Puis c'est le cercueil qui coûte
cher. C'est ça. Ouais. C'est comme ben là, je trouve en tout cas. Non. T'as bien fait de garder ton chalet, madame?
Ah non, j'ai économisé. On l'a mis dans un Tupperware.
Mm-hmm. On l'a mis dans un tombeau à céleri Tupperware.
Il va rester frais longtemps.
C'est la bonne forme. Oui, exactement.
Souhaitant fouiller toutes les pistes, les Terriens se rendent au cimetière Saint-Michel où habite Bernier dans une petite maisonnette qui lui servait également de bureau. Oh non. Sur place, le fossoyeur Marcel Bernier est plutôt évasif face aux questions que lui posent les Terriens.
Oh non!
Parfois, il affirme avoir vu Denise descendre du bus pour aussitôt revenir sur son témoignage et répondre par la négative, affirmant qu'il s'était plutôt rendu à l'autre bout du cimetière pour y tondre le gazon.
Oui.
Ça oui, pousse, ça pousse!
Oui, mais non!
Malgré l'impression douteuse que lui laisse Marcel Bernier, la mère de Denise, ses frères et sœurs, ainsi que quelques amis et camarades de classe qui avaient offert leur aide à la famille afin de retrouver Denise, n'ont d'autre choix que de rentrer chez eux. Vers 19h, Henri Terrien, qui avait débuté son quart de travail à 15h à l'usine du pont de Shawinigan, téléphone à sa femme, sans savoir l'angoisse dans laquelle celle-ci se retrouve. Lorsque sa femme l'informe qu'elle est sans nouvelles de Denise suite au rendez-vous de celle-ci, il panique et s'en veut à mort de ne pas avoir accompagné Denise à son rendez-vous.
Oh, pour monsieur.
Monsieur Terrien obtient alors la permission de son patron de quitter son poste et d'aller prêter main-forte à sa femme. Bravo au patron d'usine des années 60. Dans ma tête, vous êtes pas de même.
Ben c'est ça que j'allais dire.
Il était ben chill.
Ben ouais, vas-y mon Henri, va aider ta bonne femme, là.
Oui, va retrouver ta bru. Non, c'est pas ça.
Ouais.
Va retrouver ta fille.
Ouais, c'est ça. Je suis sûre que c'était pas si, si doux que ça, non. Comme dismissal, là. En tout cas.
Se disant...
Oh, pauvre Henri.
Oh. Pauvre Henri. Se disant que celle-ci est sans...
M'excuse d'avoir ri de son nom.
Se disant que celle-ci est sans doute déjà en train de faire le tour du voisinage pour retrouver Denise, Henri Therrien se rend directement au poste de police afin de signaler la disparition de sa fille.
Ah, oh, il avait pas fait ça avant?
Non, je suis comme... C'était comme un peu l'étape numéro un, guys, mais c'est correct.
Mais peut-être que ça... Mais je veux dire, c'est sa femme. Elle savait peut-être pas que c'était ça qu'il fallait que tu fasses.
Elle savait pas... Elle savait pas utiliser le téléphone si c'était une femme dans les années 60.
Ben non, je veux dire, tu prends le compliqué. C'est dangereux. Avec tes ongles manucurés...
C'est dangereux,
c'est facile
là.
De juste glisser quand tu composes un téléphone à roulette.
Puis là, d'un coup, que tu glisses trop fort puis que tu donnes un coup dans l'utérus, puis là, tu deviens hystérique.
Ou tu t'enfonces un ongle dans l'œil puis tu perds ton œil.
Ou comme tu fais, tu brises ta belle boucle d'oreille.
Ben là, moi, je voulais me porter à la défense de la madame et dire que peut-être qu'elle savait pas qu'il fallait que t'appelles la police, puis c'était ça, bon. Puis là, toi, tu ris d'elle.
Non, comme je ris d'Henri Therrien. De la misogynie des années 60.
Ah oui, ok, excusez. Faut rappeler le sarcasme.
Oui.
Le niveau de sarcasme est... It's too damn high!
Dites-vous qu'à chaque bout de phrase, il y a une petite barre oblique puis un S.
Ah!
Et c'est toujours sarcasme.
Ah,
Partie 3. L'étrange Monsieur Bernier.
Non.
Oui. Désespéré, Henri Therrien entreprend de retourner à chaque jour au cimetière Saint-Michel, où Denise aurait été vue en vie pour la dernière fois. C'est là qu'il tombe à son tour sur Marcel Bernier, le fossoyeur du cimetière. À la vue de Monsieur Therrien, celui-ci semble nerveux et tente même de prendre la fuite quand Henri s'approche de lui.
Ok, mais là, ça, c'est louche en tabarnak.
D'ailleurs, quand Henri Therrien lui demande s'il aurait aperçu Denise après que celle-ci soit descendue du bus, Bernier lui donne une réponse un peu étrange. En effet, celui-ci affirme que s'il se trouve habituellement dans son bureau le matin, qu'exceptionnellement, le jour de la disparition de Denise, il faisait l'entretien des tombes situées à l'autre extrémité du cimetière. Il ajoute une autre information qui donne froid dans le dos à M. Therrien. Depuis la disparition de Denise, la première chose que je fais en arrivant au cimetière, c'est de vérifier toutes les fosses nouvellement creusées pour voir si quelqu'un n'y aurait pas enterré Denise. La conversation en reste là. Et, police, s'il vous plaît, ce monsieur, maintenant.
C'est donc, mais c'est pas la première personne qui tuait, c'est ça?
On va y revenir.
Ok, parce que je trouve ça weird. Je trouve que tout ça est weird.
Est étrange.
Pour une petite ville des années 60, excuse-moi, t'appelles au bureau de placement pour demander quelqu'un que tu vas tuer. Oui. Ça fait Craigslist Killer avant le temps, là.
C'est un pionnier.
Oui, un avant-gardiste.
Ah oui.
Mais je veux dire,
il a paved the way.
C'est parce qu'à un moment donné, tu sais bien qu'ils vont te retracer, là. T'es pas un génie du crime, là. C'est quoi cette affaire-là?
Non, mais on va y revenir parce que c'est vraiment pas un génie du crime.
Non, pour vrai?
Non.
Ah, pas comme la madame, là, avec tout le truc de... J'explique tellement bien.
Ouais, je suis comme, oh oui, la madame.
Ah oui, tu sais, la madame avec le truc de...
Okay, oh oui,
le
elle,
gars
on
qui
la salue.
S'était fait pogner dans un scheme, qui avait mis une bombe autour du cou, puis l'avait envoyé pour voler une pizzeria.
Oui, ce documentaire, on s'en rappelle.
Puis là, ça s'appelait comme genre Evil Mastermind, ou une affaire de même. C'est ça, Evil Genius, ou je sais pas quoi. Puis dans le fond, c'était comme...
C'était juste une madame bizarre.
C'était juste weird. C'était juste bizarre, c'était juste Evil Weirdos.
C'était juste du monde. Bizarre.
Il y a personne qui était particulièrement génial là-dedans.
Non. Alors, le dimanche suivant, alors que Bernier est en voiture avec sa femme et sa belle-mère, parce que tu sais, dans le temps, tu faisais des tours de machine, c'était comme le loisir.
Ben, mon fils, il aime ça faire des tours de machine quand on vient de la garderie. Oh. Il demande ça.
Machine.
Non, il dit.
Mère, s'il vous plaît, je veux faire un tour de machine.
Exactement. J'allais dire non, il dit auto, mais non, ta version est meilleure.
Oui. Mère, je vous en prie.
Mère, je ne veux point aller à la maison. Pourrions-nous faire un tour de machine dans les quartiers de riches? Bien sûr.
J'aimerais regarder les maisons. Ces jolies maisons de Westmount.
Ah, comme elles sont belles. Voilà. Ma vie est riche et incroyable.
J'ai hâte que ton fils grandisse et qu'il nous entende l'imiter. What?
Parce que c'est sûr que ça va perdurer pour toujours.
Ben
t'sais,
oui.
Tu sais, c'est comme les archives de l'Internet. On a encore les vidéos qu'il y avait sur YouTube en 2003. Là.
Ouais.
C'est ça. C'est sûr que ça va perdurer et revenir.
On vous voit encore faire des Ice Bucket Challenge.
Et le Keyboard Cat. On s'en rappelle.
Oui.
Y est-tu encore en vie, le Keyboard Cat?
Je pense qu'il est mort. Hein.
Ah! Oh non, s'excuse.
Alors que Bernier est en voiture avec sa femme et sa belle-mère, il fait peut-être le bébé à Catherine. Celui-ci insiste pour qu'il fasse un détour pour aller rendre visite à la famille Terrien. Une fois arrivé sur place, Bernier va à la rencontre de M. Terrien pour lui demander s'il avait des nouvelles de Denise. Encore une fois, Bernier...
Il est marié, le Fossoyeur Weird?
Oui. Vous allez quoi, tous trouver l'âme, ça!
À chaque torchon, ça guenille!
Exactement!
Oui.
Encore une fois, Bernier donne d'étranges informations à du monde qui ne lui avait absolument rien demandé.
Mm-hmm.
Avez-vous des nouvelles de Denise? J'ai su qu'elle avait retiré tout son argent de la banque et qu'elle était partie avec.
Vous avez su comment ça?
Comment, monsieur? Expliquez-vous.
Comment ça, su?
Parlez plus fort dans mon lapel. Aussitôt, M. Terrien rétorque avec colère que cette information est fausse, qu'il a retrouvé le sac à main de Denise et que tout son argent y était.
Mais je veux dire, comment il saurait ça, lui?
He's just a weird man.
Oui, c'est lui, evil weirdo.
Oui.
OK.
Voyant qu'il a fait un faux pas, Bernier tient à offrir ses sympathies aux Terriens. On sympathise avec vous autres. Si jamais vous avez des nouvelles de Denise, dites-le-moi et moi, de mon côté, je vous tiendrai au courant de tout. Je continue tous les matins ma tournée des fosses.
Moi, j'imagine juste la face de sa femme et de sa belle-mère pendant qu'il est en train de raconter.
Sont comme... On allait au Starbucks commander
Marcel,
des...
qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que tu fais, là?
C'est bizarre!
On s'en allait déjeuner, là.
On s'en allait au Cora, là.
Oui, c'est ça. Je voulais mon ordre de toast avec des bines à côté, s'il vous plaît.
Et là, je cite le Allo Police.
Oh, good.
Ça prend un enculé d'enfant de chienne pour faire ça.
Quoi?
Oui. Je répète, j'ai cité le Allo Police. Des fois, je me dis « Ah, c'est triste, on n'écrit plus comme la Allo Police. » Puis des fois, je me dis « Ah, maudite bonne chance qu'on n'écrit plus comme la Allo Police. »
C'est ça qu'on appelait le « yellow journaling », non?
Ouais.
C'est « Ok, c'est ça, c'est... Oh non, on peut pas dire des affaires de même. »
Oui.
Excusez, je parle dans mes mains, est-ce que je trouve catastrophique?
Ah oui, Catherine est sous l'eau. Catherine est allée prendre sa douche.
Bon.
Dans les jours suivant la disparition de la jeune Denise Terrien,
mm-hmm.
Marcel Bernier va s'efforcer de s'immiscer dans les efforts de recherche. Accompagné de son beau-frère, celui-ci participait avec un peu trop d'enthousiasme à toutes les battues organisées à Shawinigan.
OK, tout le monde, let's go! On est capable! Je vous ai amené des muffins!
Je m'excuse, c'est vraiment triste!
J'ai amené des Zimbits!
Pour retrouver la jeune fille.
Cet enculé d'enfant de chienne, que fait-il?
Il insistait aussi souvent auprès de sa belle famille quand il lui rendait visite pour qu'ils aillent participer à des recherches en forêt la fin de semaine.
Il y a ben pas rapport, il n'y a pas une famille à lui!
Ouais, mais ben, sa belle famille, il n'a jamais mentionné de famille à lui, mais moi je suis comme « Ah oui, mon beau frère, viens-t'en, je te propose une activité, on va aller chercher une personne disparue dans le bois. » Marcel, ça fait déjà 5 fois.
C'est creepy.
What the fuck?
Ça me tente pas.
Catherine, qu'est-ce que tu fais ce soir? As-tu envie d'aller chercher une personne disparue dans le bois?
100%. Où allons-nous faire notre battue? Je vais amener les Timbits.
Comment tu proposes ça à quelqu'un comme activité? Oui.
Mais ça, là...
Allons faire une battue!
Ça, là, c'est une affaire typique. On le sait, nous autres, on est les spécialistes du true crime, OK? Ouais. C'est une affaire typique de tueur, là, de se mêler des efforts de recherche.
Ouais,
ils pensent qu'ils sont bien, bien slick, mais c'est juste des evil weirdos.
C'est ça.
Voilà.
Plusieurs ressentaient par ailleurs un malaise à côtoyer Bernier, puisque celui-ci lâchait souvent des commentaires du type...
Des pets.
Celui-ci lâchait souvent des commentaires du type « Ça serait facile pour un gars de prendre une fille sur le bord de l'autoroute, de l'amener dans les branches ou de partir avec elle en auto. »
Oh, read the room, buddy! C'est pas la place pour faire des jokes de même!
Monsieur, ceci est un Wendy!
Toujours!
En privé, Bernier affirme aussi à son beau-frère que le 8 août, soit le jour où Denise Terrien a été aperçue en vie pour la dernière fois, il aura entendu 2 personnes, un homme et une femme, se quereller alors qu'ils tondaient le gazon du cimetière.
Excusez les images. Mais là, il devait crier fort en maudit. Comment il faisait pour entendre ça par-dessus sa tondeuse?
On est en 61, c'est des tondeuses acoustiques.
Ils n'ont pas des tondeuses à gaz? À gaz?
Oh, peut-être des tondeuses à gaz, mais moi, dans ma tête, c'est plus des tondeuses... les vieilles tondeuses qui pèsent une tonne, là, en métal.
Ah, OK.
Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça qu'il y avait.
Ah non, moi, je pensais qu'il entendait du monde crier par-dessus sa tondeuse.
Son tracteur. Mmh. Ah si, c'est mon tracteur, je passe à toi.
La 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 la.
Curieux, celui-ci se serait alors approché de la commotion, mais n'aurait vu qu'un homme forcer une femme qui se débattait à entrer dans son véhicule.
Ah, mais juste ça!
Juste ça! J'ai fait « Ah! » Mondays, et je suis repartie.
Et je n'ai pas appelé la police.
À sa belle-mère, Bernier déclare toutefois que le jour de l'enlèvement de Denise...
Pauvre belle-mère!
Il aurait vu un véhicule noir faire des rondes autour du cimetière.
OK, mais toute sa belle-famille à ce stade-ci...
Ils sont comme « What the fuck, est-ce que tabarnak? »
Pourrais-tu arrêter de mentionner ça 2 minutes? T'aurais-tu rapport? T'aurais-tu quelque chose à voir avec cette histoire?
Puis là, sa belle-mère, elle y a répondu...
Mon enculé de chien sale!
Là, sa belle-mère, elle y a répondu « Marcel, tu te trouvais dans un cimetière, c'est un corbillard! »
Ah, oui, c'est vrai.
Il vient te livrer tes corps.
Ah, pardon. Le corbillard, il livre des corps? Ben oui, c'est vrai.
Oui, on se trappe pas les morts sur le dessus de notre auto avec la boîte à ski de fond.
Oublie ça. Dans ma tête, le corbillard, c'est juste comme, je sais pas, pour transporter le cercueil, mettons, genre...
Ouais, mais il y a quelque chose dans le cercueil.
Du centenaire jusqu'au...
Ouais, mais il y a quelque chose dans le cercueil.
Oui, c'est un cadavre.
Le cadavre est dans le cercueil, Marion.
Bon, Marie-Lé. OK. Dans ses feuilles, Marie, non,
finalement, les commentaires de Bernier au sujet de la disparition de Denise Thérien éveillent les soupçons de la police qui l'interroge une première fois à l'automne 1961. Après
ben
comme
donc.
403 commentaires de « ça serait facile de kidnapper quelqu'un ici!
» Je vais retourner faire le tour des fosses, voir s'il y a des fresh cadavers dedans. Mais voyons donc!
La police! Je pense que je vais te poser des questions.
Est-ce qu'il y avait une police à Shawinigan?
Oui, oui, oui.
Ah, OK, parfait. Je me disais, il n'y en avait pas.
Non, il y avait juste une
police. Non, mais il y avait une police régionale pour toute la Mauricie. Puis comme, il y avait d'autres choses.
Peut-être une police régionale, mais dans les articles du Allo Police, ça dit la police. La police.
Ouais, à mon avis, c'est la putain de la sûreté provinciale. Non, on les aime, la sûreté provinciale.
L'homme.
Les policiers.
Bernier nie en bloc avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de la jeune fille, et faute de preuves, les policiers le relâchent. Partie 4. Aveu ou Main Character Syndrome. 6 mois après la disparition de Denise Thérien en janvier 1962, Marcel Bernier annonce à sa belle-mère et son épouse qu'il sait où se trouve le corps de Denise Thérien.
Ah, si bol!
Il n'y a rien que moi qui sais où elle est, et pas un chien ne pourra le retrouver.
Ah, oh, pas un enquête de chien sale.
Non, cette fois-ci, juste un chien.
Un chien sale.
Un gentil chien.
Ah, un gentil chien.
Rex.
Un chien propre.
Voilà. Ah. Chien police.
L'escouade canine. Wouf!
Je le dirai que sur mon lit de mort et pas avant. Et ça, il n'y a rien que vous autres qui le savez.
OK, mais je voudrais...
Tu peux-tu juste déballer ton cadeau de Noël qu'on crisse notre cadeau?
Comment on appelle ça? Recant? Tu sais, je voudrais...
Oui.
Juste, tu sais, nier, là, puis tu... Bon, ce que je disais avant, je pense pas qu'il ait tué d'autres mondes avant, parce qu'il est pas capable de se fermer la trappe. On le saurait.
Ouais. Quelques mois plus tard, au printemps, Bernier demande au curé de la paroisse attenant le cimetière Saint-Michel de pouvoir se confesser.
Oh, c'est bon.
Celui-ci déclare alors avoir menti aux policiers et dit qu'il avait vu Denise aller cogner au chalet abandonné à proximité du cimetière. Cette information contredit directement ce qu'il avait affirmé aux policiers, soit que lorsque Denise était descendue du bus, il se trouvait à l'autre extrémité du cimetière et ne pouvait pas voir la route et les passants. Le prêtre décide toutefois de n'accorder aucune importance à ces nouvelles informations, sachant que Bernier avait tendance à vouloir attirer l'attention et il a assumé qu'il s'agissait encore d'une tactique de celui-ci pour se donner de l'importance. Lentement mais sûrement, malgré les commentaires « weird as fuck » de Marcel Bernier, le manque de preuves fait en sorte que le meurtre de Denise Thérien devient un cold case. À quelques reprises, des journalistes ont tenté de se réapproprier l'affaire, mais tous se heurtent à de fausses informations fournies par d'autres mondes en manque d'attention. Entre autres, un informateur anonyme qui prétend être un proche de la famille Thérien va se rendre auprès des journalistes du Soleil pour leur raconter que Denise est en vie et se cache aux États-Unis sous un nom d'emprunt. Selon lui, Denise avait eu maille à partir avec des membres influents d'un réseau de trafiquants de narcotiques et avait dû s'enfuir, sachant sa vie en danger. L'informateur refuse par ailleurs de se nommer, prétendant craindre des représailles de la mafia si son nom devait être révélé.
Non, tu sais, Wild Shawinigan.
On parle d'une jeune fille qui avait peur de garder des enfants à cause de sa santé chétive.
Parce qu'elle était trop chétive.
Oui, elle fait du trafic de drogue.
Ben, elle pourrait faire du trafic de drogue. T'as pas besoin d'être bien robuste pour faire ça.
Les sœurs Lévesque.
Ben, c'est ça.
T'as juste besoin d'une grosse valise.
Une grosse valise rouge. Et Sylvain Roy.
Oui, t'as juste besoin de Sylvain Roy.
C'est tout.
The Man of Mystery. Naturellement, l'information sera aussitôt démentie par Henri Thérien. Celui-ci affirme que la fugue et autres théories du genre sont complètement farfelues et que sa fille timide et rangée n'aurait jamais eu rien à voir avec des gens du crime organisé. Ce que j'ai pas vraiment de misère à croire.
Mais là, fugueuse, elle était...
Oh, c'est vrai, fugueuse.
Elle était toute chétive et rangée, puis tout à coup, elle est tombée dans l'enfer de la fugue.
Oh, c'est vrai.
Je l'ai regardé, ce téléroman-là, ça paraît, hein.
L'enfer de la fugue.
L'enfer de la fugue. J'ai aucune idée c'était quoi, cette
Elle doit toujours fuguer et elle peut jamais être born to run, comme Bruce Springsteen.
Voilà!
Et là, je pouvais pas ne pas citer l'article du Allopolis à ce sujet.
Ok, cool.
Il faut écarter la possibilité d'une fugue chez Denise Terrien. La Jouvencelle n'appartient pas à la catégorie de ces jeunes écervelés qui prennent des chances. Issue d'une famille honorable, assise sur des principes solides et des chaises tout aussi solides, j'imagine, mm-hmm. Terrien habitait un coquet bungalow à Shawinigan Sud. Tout porte à croire qu'elle y était heureuse. Ses parents, comme ses intimes, la connaissaient comme une fille obéissante, sage et laborieuse. Par pudeur, elle évitait même de se montrer en costume de bain.
Je pense pas que c'est ça que ça veut dire, laborieux.
Ouais, moi aussi, je suis comme, non, laborieux, c'est comme...
C'est quelque chose qui est difficile à faire.
Ouais.
OK.
Je veux dire, il voulait-tu dire travaillante, tu sais, comme un labeur?
Oui, je pense que oui. OK.
Oui, mais...
Elle était une fille laborieuse.
Exactement.
Une jeune jouvencelle.
Une jeune jouvencelle.
De Shawinigan Sud.
Je pense que le mot jouvencelle en 1961, il a fait comme, pardon?
Une jouvencelle.
Je pensais que j'étais partie avec l'époque des Lumières, moi, là.
Ah, c'est magnifique. Une jeune débutante, jouvencelle.
Une jeune débutante. Jouvencelle, là. Je savais pas qu'il y avait des balles à Shawinigan.
Oui, on l'a reçue à la cour du roi. C'est incroyable. Wow.
Alors, sachez-le, si vous êtes déjà sorti de votre maison en costume de bain, selon le Allopolis, vous méritez de vous faire kidnapper.
Il y avait pas de costume de bain dans cette description-là?
Ben oui, à la fin, elle évitait de se montrer en costume de bain.
Ah, oui!
Mm-hmm. 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 Elle se montrait juste en costume de douche.
C'est pas pareil. Avec le casque de douche.
Exactement, avec des fleurs. Mm-hmm. Pas montrer ses cheveux.
Non.
Voilà. Partie 5.
Oui.
Un informateur.
C'est-tu le même informateur?
Non, okay. C'est un autre.
C'est un vrai?
Un vrai informateur.
Ah, ok.
Il est tout petit, c'est un informateur.
Il était-tu dans Fort Boyard?
Malgré le temps qui passe...
Je ne jamais aller à LOL, non. Je ris à mes propres jokes.
Moi, on est éliminés, ça fait longtemps. Patrick Huard sera en train de nous frapper.
C'est comme, non, je veux pas que vous soyez assis avec moi dans la salle.
Vous gossez, allez-vous-en.
Retournez chez vous.
Retournez chez vous, v'là des billets d'autobus, là, va-t'en. Malgré le temps qui passe et l'absence de preuves, Henri Terrien ne perd pas espoir. S'il sait que les chances que l'on retrouve la jeune femme saine et sauve sont minces, il espère tout de même qu'il saura un jour ce qui lui est arrivé. Pour citer encore une fois le Allopolis, parce que comme il faut...
Toujours.
Hélas! Pouvait-il prévoir la fatalité? Deviner qu'un fou dangereux guettait sa proie, en l'occurrence son enfant. La fatalité est la seule responsable. Sous le couvert de l'anonymat, le monstre ourdissait déjà la perte d'une jeune fille. Il ne savait pas lui-même le nom de sa victime. Il tissait simplement, avec des précautions infinies, la toile meurtrière dans laquelle il comptait capturer sa proie.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait des études en lettres françaises à l'UDM.
Là, j'ai fait mon cours classique.
Et maintenant, de
ça
poésie.
Va être votre problème.
Voilà.
I'm about to make it your problem.
Là, je veux pas trop être stickler des mots qui veulent pas dire ça, mais la fatalité, c'est pas ça que ça veut dire,
non.
Monsieur. Je veux dire, il y a quelque chose qui est fatal, mais la fatalité, ça veut dire le destin. Je pense pas qu'on peut dire que c'était le destin de Denise Terrien de se faire assassiner par un fou furieux. Je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire.
J'ai dit qu'il avait fait son cours classique, j'ai pas dit qu'il avait réussi.
Non, c'est ça, excusez.
Moi, j'ai dit qu'il avait eu des coups de règle ses doigts une couple de fois.
Mm-hmm. Puis c'est clair qu'il était pas allé à l'UQAM parce que c'était pas l'UQAM.
Non.
Voilà.
En 1964, Henri Terrien écrit une lettre en son propre nom au tout nouveau procureur général Claude Wagner, afin de plaider pour que de nouveaux efforts soient déployés pour retrouver sa fille.
Ça, c'est un beau nom, ça.
Oh, ça, c'est un nom qui a du prestige.
Oui, je sais que Wagner était un fasciste de merde. Fallait juste que je le dise.
Oui. Et on n'aime pas les fascistes.
Pas Claude Wagner, je veux dire Richard Wagner, le compositeur. Bon, voilà.
Si Wagner ne va jamais répondre à la lettre de Terrien, de nouveaux efforts vont effectivement être déployés en 1965 pour que l'on retrouve Denise Terrien, ou du moins sa dépouille.
Oh non!
Ce que la famille Terrien ignore, c'est que la police décide de réouvrir l'enquête parce qu'elle bénéficie désormais d'un atout de taille, un informateur qui peut les renseigner sur l'emplacement de non pas un, mais bien deux corps de femmes portées disparues il y a de cela quelques années.
Oh non, il avait tué quelqu'un d'autre pour vrai! Mais comment ça qu'il s'est pas fait attraper avant? Maudit enculé chien sœur. Ok, parfait.
Dans un premier temps, les policiers provinciaux parviennent à retrouver la dépouille d'une certaine Laurette Beaudoin.
Oh non!
Dans la jeune trentaine, celle-ci était une femme marginalisée, jugée comme excentrique par plusieurs parce qu'elle avait divorcé de son mari.
Oh, la honte!
Oh, la honte!
Mais c'était pas facile de divorcer dans ce temps-là.
Non, non, je sais que c'est le début des années 60, là. Et elle offrait ses services à titre de travailleuse du sexe pour arrondir ses fins de mois.
Oh, ça, là, c'est épouvantable, hein? Ça n'a pas de bon sens. T'sais, les femmes qui font ça, c'est pas comme s'il y avait
des hommes qui les payaient pour faire
exactement.
Ça.
Exactement. C'est pas hypocrite, pantoute, de décrier ça, parce que, je veux dire, ces femmes-là, ils ne seraient pas prostituées s'il n'y avait pas du monde qui voulait avoir leur service.
Et on sait que c'était difficile d'être divorcée à cette époque-là.
Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Non, non, je sais. Puis okay. Je veux juste spécifier, là, aucun jugement sur ce que Laurette Beaudoin faisait.
Ben non, zéro. Moi, je voulais juste dire à quel point c'était hypocrite que le monde cherche la prostitution.
C'est ça. Puis je veux juste double down puis dire que c'est correct ce que Laurette Beaudoin faisait.
Ben oui, c'est ça.
Tout le monde a besoin de vivre.
Ben oui. Puis non, moi, ce que je voulais dire, c'était pas... c'est pas facile. Ben ouais. Non, c'est pas facile de divorcer, c'est triste, les enfants. Pis... Non, non, je veux dire comme littéralement, les procédures pour se divorcer, les
à cette époque-là, c'était difficile, vraiment difficile. Je pense qu'à cette époque-là, c'était encore juste si l'autre avait fait un adultère, puis tu pouvais le prouver hors de tout doute.
C'est ça.
Puis même peut-être des cas de violence conjugale...
Non, je pense vraiment pas.
Bon. Fait que... Voilà.
Aucun... J'en doute ben gros.
Alors,
en tout cas,
aucun jugement sur Laurette Beaudoin. C'est le Allo Police qui faisait des jugements et pas moi. Elle avait disparu au mois de mai 1962 et à l'époque, certains avaient pensé que cette disparition pouvait être liée à celle de Denise Terrien, no shit. Mm. Mais encore une fois, l'absence de preuves avait empêché les policiers d'arriver à une conclusion. Grâce aux informations obtenues par la police, la dépouille de Beaudoin est retrouvée dans une fosse du cimetière Saint-Michel à Shawinigan.
Ben là, qu'est-ce qu'il faisait, Marcel? Il surveillait pas les fosses!
Non! Il est allé checker les autres à l'autre bout du cimetière. Il était pas là.
À côté du couple qui s'engueule.
Il essayait d'écouter des chicanes. Mmh. Spill that tea!
Yeah! Je vais en parler à ma belle-mère!
Ma belle-mère qui est comme « Ah, sacrement pas lui! »
C'est Marcel!
Finalement, quelques jours plus tard, les restes de Denise Terrien seront déterrés dans une région boisée située entre Shawinigan et Lac à la Tortue.
OK, au moins, elle était pas dans une fosse.
Malgré les renseignements de l'informateur, la police a mis beaucoup de temps à retrouver l'endroit exact où la jeune femme avait été enterrée parce que l'informateur disait que le paysage du mois de mars était trop différent du paysage du mois d'août.
Ben non, mais je m'excuse, mais le bois, c'est
les
le
couleurs,
bois,
là, sur... C'est pas pareil!
Ben non, mais je veux dire, en général, t'es-tu capable de décrire à quelqu'un avec précision quelque chose dans le bois?
Non.
Ben là, il y a un arbre, puis à côté, il y a un arbre, puis là, il y a une roche.
Puis là, il y a un écureuil, oh non, ouais, puis il est plus là.
Non, il est plus là. Ah, oh. C'est l'arbre avec un nœud dedans, là, tu sais, il y en a juste un arbre avec un nœud dedans. Toutes les arbres ont des nœuds dedans.
Suite à la découverte de la dépouille, on peut finalement procéder à l'arrestation du suspect qui était dans la mire de la police provinciale et sans doute la vôtre depuis le début de cette affaire.
C'est qui?
Parce que vous l'aurez deviné, chers et chères auditoristes, l'informateur de la police, c'était Marcel Bernier.
Ben voyons donc! Il est ben niaiseux!
Attends. En effet, celui-ci avait été placé en état d'arrestation en 1962, après avoir attaqué l'abbé Grégoire Leblanc, l'administrateur du cimetière Saint-Michel.
Ben là, c'est quoi ça, c'est pas vrai?
La police provinciale l'avait arrêté et accusé de menaces et de tentatives de meurtre sur la personne du curé. Depuis, il bénéficiait de... les policiers bénéficiaient de tout le temps dont ils désiraient pour forcer Bernier à cracher le morceau au sujet du meurtre de Terrien et de Beaudoin, chose à laquelle il ne s'attendait pas pantoute.
Mais pourquoi il a attaqué un pauvre curé?
On le sait pas. Mais il a attaqué un curé. Peut-être au sujet de la gestion du cimetière ou de son emploi. Peut-être.
Mais c'est pas une raison d'attaquer un curé?
Non, je sais. Non. À l'hiver 1964, Bernier accepte finalement de collaborer avec la police quand, suite à son arrestation, son beau-frère avait repris son poste à titre de fossoyeur du cimetière Saint-Michel.
Oh non!
Voulant effectuer des travaux sur la maisonnette qui servait aussi de bureau, il avait commencé à creuser la cave et s'était aperçu qu'un trou y avait déjà été fait.
Oh mon Dieu, la trahison! Son beau-frère!
Son propre beau-frère!
Avec sa propre belle-famille!
Sa propre belle-famille qui devait avoir foule de peine qu'il s'en aille en prison! Oh, oh non, Marseille, il sera pas là pour le souper de Noël! Oh, so sad! Le beau-frère alerte la police qui trouve, au fond d'un trou de 8 pieds de profondeur, 5 pieds de longueur et 2 pieds de largeur...
Ah, c'est beaucoup de pieds, ça!
C'est beaucoup de pieds!
Oui!
De la jute pourrie et des bidons d'essence. Vraisemblablement, Bernier y avait brûlé les effets personnels de ses victimes. Il n'avait laissé à Denise qu'un petit chapelet de billes de plastique qu'elle traînait partout avec elle. Partie 6, le procès. Lorsqu'il est appelé à témoigner à son propre procès, Bernier relate, dans les moindres détails, les événements du 8 août 1961. Dans un premier temps, Bernier admet que ce n'était pas la première fois qu'il tentait de passer une annonce avec un nom d'emprunt pour attirer de jeunes femmes chez lui. Toutefois, à au moins deux autres reprises, les jeunes filles s'étaient présentées à leur rendez-vous accompagnées de leur mère, ce qui aurait forcé Bernier à rebrousser chemin. Denise Thérien était donc la troisième jeune fille à avoir répondu à un appel de Bernier, et malheureusement, la première à s'être présentée seule à son rendez-vous.
Oh, pauvre Denise!
Selon lui, quand il a vu Denise se rendre...
Denise depuis le début, là.
Ben oui. Mmh. Elle voulait rien de ça!
Ben non, mais c'est quoi son problème à lui?
On y arrive! Selon lui, quand il a vu Denise se rendre au chalet abandonné, il serait allé à sa rencontre pour lui demander si elle était la jeune fille qui avait répondu à l'annonce d'un certain Claude Marchand. Quand celle-ci a confirmé la chose, Bernier l'aurait informé que Marchand avait eu un empêchement et qu'il aurait appelé Bernier pour lui demander de conduire Thérien à son chalet situé dans le rang Saint-Mathieu. Thérien accepte et embarque dans le camion de Bernier, qui la conduit effectivement dans un boisé du rang Saint-Mathieu. Une fois arrivée à destination, Bernier demande à Thérien de l'embrasser, ce qu'elle refuse. À ce moment, la jeune fille est prise de panique. Un hélicoptère survolait la clairière et Thérien tente de sortir du véhicule et fait des signes à l'appareil en appelant à l'aide. Bernier raconte avoir alors été pris de panique et aurait attrapé la jeune fille, la forçant à revenir dans la voiture. Là, il l'aurait étendue sur la banquette arrière et aurait tenté de la faire taire en mettant ses mains sur sa bouche. Mais puisque la jeune fille se débattait avec fougue et que l'hélicoptère survolait toujours les environs, Bernier a saisi un tuyau qui traînait par terre et l'aurait frappé au visage. Thérien serait alors tombé inerte. Toutefois, selon un expert médico-légal appelé...
Et local.
Il venait sûrement de Montréal, en fait.
Ah, OK.
Appelé à témoigner, le crâne retrouvé dans la fosse indiqué par Bernier portait de nombreuses marques concordant avec des coups portés par un objet contondant. Il est donc peu probable que Bernier n'ait asséné qu'un seul coup à Thérien. Ainsi, selon l'expert médico-légal, Thérien aurait reçu de nombreux coups au visage qui auraient provoqué sa mort. L'expert ne peut toutefois confirmer si Thérien était en vie au moment de recevoir des coups.
Okay.
Bernier conclut son témoignage en racontant avoir enterré Denise sur place dans une fosse d'environ un pied et demi de profondeur. Après être retourné au cimetière Saint-Michel à Shawinigan, il aurait brûlé le contenu du sac à main de Denise, resté dans sa cabine de camion. Il n'aurait conservé qu'un portefeuille rouge qu'il aurait offert en cadeau à Laurette Beaudoin.
Oh non, pauvre Laurette!
Bernier raconte ensuite les circonstances entourant la mort de sa deuxième victime, Laurette Beaudoin.
Ouais.
Celle-ci avait été mariée à Archie Eckerchuk. Désolée, je me suis dit, je vais m'enfarger là-dedans, et je me suis enfargée là-dedans.
Elle était mariée
Archie Eckerchuk.
Au Delaware Chuck.
Oui.
D'accord.
Mais au moment de faire la rencontre de Bernier, elle était divorcée et offrait ses services comme travailleuse du sexe, mm-hmm. ce que Bernier ignorait alors.
OK. Qu'est-ce que ça fait?
C'est donc après quelques rencontres que Beaudoin aurait commencé à demander de l'argent à Bernier. Celui-ci aurait refusé, déclarant qu'il n'avait pas d'argent. Selon Bernier, c'est là que Beaudoin aurait tenté de le faire chanter. Quand le juge questionne Bernier à savoir à quel sujet Beaudoin comptait le faire chanter, Bernier explique que Beaudoin avait vu le portefeuille de Thérien en sa possession au cours d'une de leurs rencontres. Beaudoin l'aurait alors menacé de le dénoncer à la police et aurait été violente à son égard. Et là, moi, ma question, c'est pourquoi Laurette savait que ce portefeuille-là était à Denise?
Puis il venait pas juste de dire il y a deux minutes qu'il l'avait donné en cadeau à Laurette.
Oui, il est pas un témoin très fiable, le monsieur. Coudon,
est-ce qu'il raconte n'importe quoi, cet homme?
Ça se pourrait.
Ah, mon Dieu, quel enculé de chien sale, comme dirait l'allopolis.
Enragé, Bernier aurait frappé Baudouin à la figure. La femme est alors tombée au sol, inerte.
C'est vraiment un enculé de chien sale.
Oui. Bernier s'est ensuite rendu dans un garage attenant pour y récupérer un bout de tuyau qu'il aurait utilisé pour battre la jeune femme à mort. Ensuite, il aurait pris le corps de Laurette Baudouin et l'aurait lancé dans une fosse qu'il avait creusée la veille dans le cimetière Saint-Michel. Il aurait ensuite arrosé le trou d'essence et y aurait mis le feu. Suite à une question du juge, Bernier déclare qu'il ignore si Baudouin était morte ou vivante à ce moment.
Ah!
J'espère qu'elle était décédée.
Ah, j'espère que lui, il va subir des choses qui sont pas le fun.
Pour sa part, l'expert médico-légal ayant procédé à l'autopsie de la dépouille de Baudouin confirme que celle-ci comportait 3 fractures importantes au crâne. Mm-hmm. Après avoir raconté la mort des deux femmes, Bernier parle de son historique médical. Selon lui, il avait souffert de tension en 1961 et aurait été suivi par un psychiatre qui lui prescrivait des médicaments trop forts. Donc,
une... Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
J'imagine une dépression.
Ah.
En vieille parlance.
Ah, je pensais comme une migraine. Non. T'as de la tension dans ta tête.
Okay. L'accusé affirme que ce sont ses médicaments qui l'ont poussé à chercher la compagnie de jeunes femmes parce que son appétit sexuel était décuplé et que sa femme ne parvenait pas à le satisfaire. Et là, encore une fois, Catherine et moi, on vous rappelle que prendre des antidépresseurs... Ça ne rend pas crackpot.
Non.
Pour utiliser un bon terme.
Oui, mais je voulais aussi dire que ses mains, il y en avait-tu ou c'était un fossoyeur pas de main?
Pourquoi?
Ben, parce que je veux dire, sa femme.
Ouais.
Si sa femme ne fournissait pas, à la place ouais, d'agresser peux, les jeunes femmes, il pouvait.
Se fournir tout seul.
Ben, c'est ça.
Hein? Il pouvait conduire manuel.
Oui, et oh, quel bel euphémisme! Mais là, tu m'avais dit tantôt, là, je t'ai dit, c'est quoi son esprit problème, c'est quoi son esprit problème? T'as dit, attends, là, c'est-tu juste ça, là?
Oui, c'est ça.
Ben voyons donc,
t'es pas convaincu.
Non, ça ben, répond maudit. Pas, mais...
C'est correct, j'ai compris, je suis dans mon ordi.
Je ne comprendrai jamais quels sont leurs esprits problèmes, hein, ces personnes qui torturent des gens. Et qui les tuent.
Mais en plus, moi, je me dis, je connais pas grand-chose à l'histoire de la psychologie.
Mm-hmm.
Mais en 1962...
Oui.
Des antidépresseurs, ça devait être genre du lithium ou quelque chose de même, ça. Qui t'effoire.
Peut-être même de la morphine.
Je veux dire, ça devait être des médicaments qui te rendent un petit peu comme pas très actif. Et c'est surtout que les antidépresseurs modernes, appelons-les mm-hmm. comme ça, sont connus pour faire baisser la libido.
Mm-hmm.
Donc, non, monsieur, votre excuse, elle est rejetée.
Mais peut-être que c'était comme le dude là, qui a tué sa famille aux États-Unis, puis c'est parce qu'il prenait des amphétamines.
Mais les amphétamines ne sont pas des antidépresseurs.
Non, les amphétamines ne sont pas des antidépresseurs, mais mettons qu'il était ces amphétamines, genre, sans arrêt, pendant comme des semaines, et à un moment donné, il aurait pété une coche et tué toute sa famille.
Mais je sais qu'il y avait comme des amphétamines dans ce sens-là, là, les gens
toujours oui, c'est ça, lui, drogue, il s'en faisait prescrire pour perdre du poids. Parce qu'il voulait baisser d'une classe de boxeur.
Non, oui, c'est vrai, oui, c'est une vraie oui. affaire.
Tu sais de quoi je parle?
Oui,
c'est l'affaire avec le journaliste.
Ça vient de me revenir.
OK, c'est ça.
Puis là, on va arriver dans quelque chose de similaire à ce cas.
Pas vrai?
Oui.
Avec un journaliste? Qui va
pire.
Oh! Pire qu'un journaliste?
Oui.
Oh.
Après avoir entendu une vingtaine de témoins défiler sur une période de 2 semaines, c'est le jeudi 24 février 1966 que le verdict tombe.
Mm-hmm.
Après 35 minutes de délibération seulement,
mm.
le jury formé de 12 hommes, pourquoi je l'ai mentionné?
En colère.
12 hommes en colère,
dont Henry
avec
Fonda.
Le poing en l'air,
voilà.
comme ça,
oui.
Déclare Marcel Bernier coupable de meurtre qualifié et le condamne mm-hmm. à l'échafaud. Surprise, la peine de mort n'est pas abolie avant 10 ans.
Oh, j'avais oublié ce bout-là!
Et non, il ne recommande pas la clémence. Qui était ce que tu peux te demander.
La Clémence Desrochers?
Oui. Clémence Desrochers n'était pas disponible
mais oui,
ce
mais
jour.
Je veux dire, je suis désolée, je suis pas pour la peine de mort, mais je comprends pas qu'est-ce qui mériterait la clémence dans un cas comme ça.
Ben, Tony Demers l'avait eu après avoir battu sa...
Oui, mais lui, c'est un joueur de hockey!
Son amant, c'est un grand point d'en face.
Ouais, mais non, OK, mais... Mais oui, mais...
Mais ça, c'est parce que c'est un joueur d'hockey, c'est mon fifi, c'est mon garçon, c'est le fruit de mes entrailles.
Le fruit de mes entrailles! Oh, allez, ah, laissez les mecs. Mais là, non, mais...
Pour petit Tony.
Mais je sais pas, je trouve qu'il y a comme... Jusqu'à date, Marcel, là, il y a comme pas de redeemable qualities.
Non, pis, pas vraiment.
Comme tant qu'à moins, t'aurais pu mettre ça en prison pour le reste de sa vie.
C'est pas un upstanding guy.
Non, je sais pas trop c'est quoi exactement la réhabilitation possible d'un homme de même. Mais je suis pas pour la peine de mort pour autant.
Non.
Je me rappelle que je voulais dire tantôt.
Ouais.
C'est très pertinent, tu vois. Okay. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire, tu sais là, personne n'est à l'abri de commettre un crime dans la vie. Je pense qu'on est à l'abri de commettre un crime de même, là.
Ouais.
Je pense pas que c'est le genre d'affaire qui arrive malencontreusement, là.
Oups! J'ai accidentellement passé une annonce dans le journal.
J'ai accidentellement tué quelqu'un avec un tuyau, puis accidentellement caché son cadavre, puis accidentellement pas dit à personne pendant des années.
Et accidentellement dit à ma belle-mère beaucoup trop de fois.
Oui, mais je, la personne qui nous a écrit ça avait absolument raison, là. C'était
oui,
pour
oui,
défendre
oui.
Le travail des avocats de la défense, mais là, je m'excuse, mais je pense pas qu'on est à l'abri de... Je pense qu'on est tous, en fait, à l'abri, puis tant mieux!
Non, mais je veux dire...
De commettre quelque chose.
C'est un accident de voiture, quelque chose de même.
Oui!
Ça arrive.
Oui!
Mais ce genre de meurtre-là, là, non, je pense que je suis pas mal convaincue que ça va jamais m'arriver.
je l'espère bien, là.
Écoute,
il y a tellement d'étapes où tu peux arrêter.
Ouais. C'est-à-dire comme « Hey! Hey!
Hey!
Hey! »
Ça fait.
Wow!
Wow, wow! Hey. Wow, wow, j'ai dit wow! Bon, voilà.
Partie 7. Les confessions d'un fossoyeur.
Oh, nice! Avec quelque chose qui est pire qu'un journaliste.
Exactement. Si Bernier devait être pendu le 22 juillet 1966... Celui-ci bénéficie finalement d'une commutation de peine et est transféré dans une prison de Vancouver pour sa propre sécurité. 11 ans plus tard, il décède des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 57 ans,
mm-hmm.
dans sa cellule de la prison fédérale de Mountain. Toutefois, avant de mourir, celui-ci assène un nouveau coup à la famille d'une de ses victimes en décrétant qu'il n'était pas l'assassin de Denise Thérien et qu'il compte raconter le tout dans un manuscrit sur lequel il travaille. Achevé quelque temps avant sa mort, le manuscrit sera acheminé au député progressiste conservateur de la circonscription d'Hochelaga, Jacques Lavoie, accompagné d'une lettre lui octroyant le droit de faire des démarches au nom de Bernier auprès d'éditeurs québécois.
Okay.
Finalement, c'est l'éditeur Stanké qui fait l'acquisition du manuscrit afin de le faire paraître dans sa toute nouvelle collection intitulée « Notre temps » et dirigée par...
Je sais pas.
Claude Poirier.
Oh! Comment ça tu disais c'était pire qu'un journaliste?
Ben c'est un politicien.
C'est meilleur qu'un journaliste!
Si Poirier a eu la décence d'informer la famille Thérien du décès de Bernier, il ne les a toutefois jamais informés de son intention de publier les mémoires de celui qui leur avait enlevé leur fille 16 ans auparavant.
Ok, non, c'est weird ça.
Pour ajouter à la douleur de la famille, en 2007, les mémoires de Bernier vont faire l'objet d'un film, La lâcheté, dirigé par Marc Bisaillon, mettant en vedette Denis Trudel dans le rôle de Conrad, un fossoyeur tombé amoureux d'une travailleuse du sexe, jouée par Hélène Florent.
Oh non.
Dans ce film, comme dans des suppositions émises par Bisaillon lors de son passage au Festival de cinéma des Trois-Amériques, c'est plutôt Laurette Beaudoin et son souteneur qui auraient enlevé et tué Denise Thérien, espérant réclamer une rançon auprès de la famille.
Eh!
Conrad, a.k.a. Marcel Bernier, n'aurait été coupable que d'avoir plié sous le chantage des mécréants et de les avoir aidés à dissimuler le corps.
Mais voyons donc.
Mais le trou dans cette histoire, c'est... Denise Thérien, la famille Thérien, c'était pas une famille riche, là.
Non.
On va se rappeler, le père était ouvrier dans une usine et la mère était femme au foyer.
L'usine du pont de Chaoui.
C'est ça, l'usine du pont à Shawinigan et tous les enfants travaillaient. Puis c'est une famille nombreuse comme elle l'était à l'époque. Là.
Je trouve que ça n'a pas d'allure.
Je veux dire, quelle rançon! Il n'y en avait pas d'argent, les Thériens. Là. C'était
mais
pas non. Des riches.
Mais non, mais je veux dire, ça. C'est le genre de plot twist qui vend des livres, mais je trouve que ça. C'est comme. Ça scrape. C'est comme craché sur la mémoire de Denise et de Laurette.
Oui.
Je trouve ça épouvantable.
Parce qu'il n'y a aucune preuve non plus que Laurette Beaudoin avait quoi que ce soit à voir là-dedans. Peut-être
ben
que...
Ben non, mais c'est ça.
Puis je veux dire...
C'est une pauvre victime là-dedans, elle aussi.
Exactement. Puis avec tout ce qu'on a dit sur Marcel Bernier, qui n'arrêtait pas de dire à sa belle-mère tout le temps, comme « Je sais où, non, je sais pas où, je sais où, il y avait des rien. » Il n'est pas capable de former sa gueule, ce monsieur-là. Clairement que comme il l'a dit à Laurette Beaudoin,
ouais.
Puis que là, il refusait de la payer... en disant qu'il n'y avait pas d'argent, puis là, elle l'a menacé qu'elle allait voir la police, puis il a capoté.
Mm-hmm.
Je veux dire, tu sais, on n'était pas là, on n'a pas assisté à ça, puis tout ça, mais il y a des fois, là, que c'est Occam's Razor, la solution la plus simple, je veux dire. Puis dans cette histoire-là, ça ne fait pas de sens de kidnapper la jeune fille d'une famille qui n'a pas d'argent.
Ben non, c'est ça.
Je veux dire, les histoires d'enfants qui se sont fait kidnapper, ils étaient de des familles riches.
Ben, ce que je veux dire, ça sert à rien de kidnapper quelqu'un qui vient d'une famille qui n'a pas les moyens de payer la rançon.
Non, ils vont te donner quoi? Une caisse d'orange?
Oui, la soupe Campbell.
Et là, je vais citer...
Une caisse d'orange, toi, t'es-tu riche? Ouais, c'est 1960, une caisse d'orange, hey!
Puis là, je vais citer Marc Bisaillon en entrevue, qui tente de se défendre face aux reproches que lui adresse la famille Terrien.
Ben oui.
« Mon idée n'est pas de créer une polémique chez les proches des victimes. Je ne suis pas non plus un justicier. C'est une œuvre de fiction et non un documentaire. Ce n'était pas mon intention de troubler la famille. Mais en même temps, je me dis que si l'histoire du fossoyeur est vraie, il y a un assassin qui est toujours en liberté. »
Oh!
Fait que je le fais pas, mais je vais le faire aussi. Fait que c'est ce que je disais au début de mon épisode, comme...
Ouais, je comprends.
L'éthique du true crime ici, je sens qu'elle est un petit peu... pas très respectée, là.
C'est un peu particulier comme façon de procéder, mettons. Je veux dire, si c'est très, 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 très évident que tu t'inspires de rien qu'un cas, tu peux pas vraiment te permettre de faire de la grosse spéculation dans ton œuvre de fiction. Tout le monde sait que tu parles d'une affaire.
Non, puis tu sais, il dit « Ah, j'ai changé les noms », mais en même temps, tu cites ouvertement ce livre-là comme étant ton inspiration, puis c'est un livre inspiré d'un fait réel, là.
Ouais.
C'est comme... Puis c'est un livre qui a été hautement controversé depuis le début, là, comme Henri Terrien avait publié des chroniques dans le journal Le Soleil pour décrier que ce livre-là allait être publié.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, toi, t'as vraiment juste ignoré toutes ces portions-là, puis là, maintenant qu'il y a des conséquences à tes gestes, comme, on sort ces excuses-là qui sont, je m'excuse, un peu boboche.
Ouais.
Comme, je veux pas prêter des intentions à Monsieur Bisaillon, mais honnêtement, je me pose un peu des questions, là, comme... Tu sais, il y aurait eu moyen, au pire, de, comme, vraiment plus tendre vers la fiction, tu sais, au pire, tu t'inspires de cette histoire-là, puis tu crées d'autres choses, je veux dire. Tu peux écrire une histoire de crime, là, des romans policiers, c'est pas tout inspiré par des vraies affaires.
Mais non, c'est pas particulièrement difficile à inventer comme affaire, là.
Puis...
Je peux pas comprendre pourquoi tu choisirais d'exploiter cette histoire-là de cette manière-là, à part pour faire jaser puis faire de l'argent. Mais c'est surtout les spéculations sur comme l'implication de Laurette que je suis comme, mais ça c'est juste downright insultant.
Ben exactement, puis elle est plus là pour se défendre, puis en plus cette femme-là était...
Elle a été tuée!
Puis en plus, elle était divorcée, elle était clairement marginalisée, puis là maintenant, après sa mort, comme qu'on crache sur sa mémoire comme ça, puis qu'il n'y a plus personne pour la défendre, parce qu'au moins la famille de Terrien, eux, ils sont encore là, elle est encore... Ça s'est passé dans les années 60, là. Ses frères et sœurs, ils ont eu des enfants qui maintenant sont un petit peu plus vieux que nous, là.
Mm-hmm.
Donc, elle a encore des gens autour d'elle pour défendre sa mémoire, puis dire que, comme, selon eux, c'est pas ça qui est arrivé. Of course que les preuves sont peut-être pas tout à fait directes, mais que, tu sais, cet homme-là a été jugé par un...
Ben oui. Puis je veux dire, tout pointait vers ça aussi, là. Comme... En tout cas... Bon, c'est ça la discussion.
Épilogue.
On discute pas fort parce qu'on a la même opinion.
Exactement. Mm-hmm. Épilogue. Laissez la parole aux victimes.
Ah!
Je ne m'aventurerai pas trop sur l'éthique de Claude Poirier à titre d'éditeur en publiant les mémoires d'un homme qui avait été jugé coupable au terme d'un procès juste et équitable. Je ne dirai rien non plus sur Bisaillon et l'éthique de faire un film, mais là, je l'ai faite, fait que je me contredis un petit peu.
Ah! Oh,
par contre,
je te raconte, pardon.
Si vous aimeriez en savoir plus sur l'histoire de Denis Terrien et du poids que laisse un tel geste sur une famille en entier, je vous encourage plutôt à vous procurer l'inoubliable affaire Denis Terrien, un ouvrage entièrement rédigé par Isabelle, la nièce de Denise, la fille de Micheline.
Oh!
L'idée d'écrire un livre lui était venue de Micheline, sa mère et la sœur de Denise, celle qui n'est jamais parvenue à se pardonner d'avoir poussé à sa jeune sœur d'aller rencontrer Marcel Bernier.
Mais c'était pas de sa faute, Micheline!
Et non.
C'est pas de ta faute, Micheline, voyons!
Et le livre est beaucoup basé sur les journaux de Henri Thérien. Il a beaucoup écrit après la disparition de sa fille. Il a beaucoup lui-même essayé de mener des enquêtes pour essayer de trouver qu'est-ce qui était arrivé à Denise. Il y a beaucoup d'archives de Henri Thérien qui sont dans ce livre-là. Mm-hmm. Alors, disons que, selon moi, les voix des victimes, c'est pas mal les plus importantes.
100%!
Alors, c'était le cas de Denise Thérien.
Oh! C'est vraiment beau!
Donc, voilà. Puis, je sais pas, ça se passait dans les années 60, chose intéressante.
Ben, ça allait intéressant. C'est la première fois que tu... À part ton Idomer, t'avais-tu déjà fait du old-timey?
Oui, j'avais fait la seule pendaison de la Malbaie.
Puis la baie de l'or, puis je m'en rappelle. Ouais.
Ben, c'est pas mal mes 16 aventures dans le old-timey.
Ah! Oh. Ben, c'est le fun, quand même. Puis le Allopolis, tes yeux saignent-ils encore?
Ben, c'est surtout gênant, parce que des fois, je travaille sur un peu de crime pendant mes pauses dîner au travail. Mm-hmm. Puis dans le Allopolis, il y a beaucoup d'annonces pour des femmes qui portent pas beaucoup de vêtements et qui veulent me parler au téléphone.
Ah, intéressant! Je les appelle tout de suite.
Oh oui, elles ont des poitrines spectaculaires.
Ah, boubili boubili boub.
Que je me dis, waouh, il y avait encore de la place pour du texte.
Incroyable!
Alors c'est oui, j'étais un petit peu gênée, mais c'est drôle parce que c'était de la pornographie vraiment très années 60, là, fait que c'est des madames avec des petits cheveux, puis comme des seins en forme de micelle.
Oui.
J'étais surtout gênée pour ça, puis il y avait aussi beaucoup d'annonces de petites pilules pour perdre du poids, et des petits cossins comme ça, et des huiles pour la perte de cheveux, et...
Ah, c'est bon, ça.
Et la virilité, des choses comme ça.
Ah, ça devait être génial.
Mais j'ai aussi coupé, là, il y avait vraiment beaucoup de victim blaming, puis à un moment donné, ça partait sur...
Sur les bikinis.
Non, ça partait sur une tangente sur la traite des blanches. J'étais comme ça, c'est un sujet à part entière. J'ai déjà écouté... Il y a un podcast que j'écoute qui ont carrément fait 5 heures sur la panique de la traite des blanches au début du 20e siècle. Fait que je me suis dit, OK, on va pas aller là. Puis anyway, c'est comme super raciste et ça me met vraiment très, très, très mal à l'aise.
La traite des blanches?
La traite des blanches.
C'était la grosse crainte de Pacific Plant, ça, la traite des blanches.
Oui, une chose qui n'est absolument jamais arrivée.
Ben voyons donc! Comment oses-tu? Mais donc, c'était une histoire très intéressante. Et j'ai cherché sur Google... C'était quoi le nom du gars qui prenait des amphétamines, là?
OK.
Bon, il s'appelait Jeffrey McDonald.
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça. C'est ça. C'est lui qui a tué sa femme. Puis après ça, moi, tout vous conter ça, bien vite, vite. Puis après ça, vous irez écouter le podcast là-dessus, qui s'appelait... Je vais tout vous conter ça. C'est l'heure de Catherine vous spoil un podcast. Ça s'appelait Morally Indefensible. Puis c'est donc moralement indéfendable. Et ce n'était pas avec Sébastien Delorme. Mais tu peux l'imaginer si ça tente. Donc, c'est l'histoire d'un gars, comme j'ai conté tantôt, qui prenait des amphétamines, qui a tué toute sa famille. Quand il était en procès, il a réussi, parce qu'il était médecin, il était quand même une personnalité publique. Tu sais, il était quand même une personnalité respectée. Il était un Green Beret, il était médecin dans l'armée et tout. Il avait réussi à être, tu sais, relâché sous condition, whatever, avoir son procès. Puis là, il passait partout, dans toutes les talk shows, dans les médias, blablabla. Puis quand il a été condamné, parce qu'il a été trouvé coupable de ce meurtre qu'il avait très clairement commis, il a été contacté par un journaliste qui s'appelait Joe McGinnis, puis qui lui a dit « J'aimerais écrire un livre sur toi pour raconter ta vraie histoire. » Parce que, bien sûr, Jeffrey McDonald disait à tout le monde
Non,
ce n'était pas lui qui avait tué sa famille.
C'était des hippies.
C'était des hippies, parce que c'était juste après les meurtres de Family de Charles Manson. Fait que, bon, il disait, c'est les hippies, ils sont rentrés chez nous, puis ils étaient comme, kill the pigs, blablabla, puis là, ils ont tué ma famille. Puis que là, Joe McGinnis...
Acid is groovy.
A commencé... Oui, acid is groovy, kill the pigs. Puis là, Joe McGinnis lui a envoyé une enregistreuse, puis Jeffrey McDonald lui a enregistré l'histoire de sa vie pendant des heures et des heures et des heures, puis ils ont échangé des correspondances, puis là, pendant des années. Puis là, Joe McGinnis écoutait ça, puis il lisait ses lettres, puis il se disait, ouais, mais comme, il est clairement vraiment coupable. Fait qu'il a fini par écrire un livre dans lequel, ben, il a pris tous les morceaux que Jeffrey McDonald lui donnait pour lui dire qu'il était innocent, puis c'était les hippies qui avaient tué sa famille. Pour finalement, eh ben, soutenir la thèse que c'était pas vrai pantoute, puis Jeffrey McDonald avait tué sa famille. Puis là, quand ce livre-là est
bamboozled.
Sorti... Bamboozled. Et là, c'est l'affaire que j'étais comme, non, je ne peux plus écouter ce podcast. Là, quand le livre est sorti, tout le monde était comme, oh my God, Joe McGinnis,
How dare
t'es
donc
ben pas correct! Tu es un journaliste et tu as menti à ton sujet d'interview. Il y avait des faux prétextes sous lesquels tu l'as interviewé, puis là, avec ça, t'as écrit le contraire de ce que t'avais dit que t'allais écrire, et c'est ça qui était moralement indéfendable dans le podcast, puis j'étais comme, ben voyons donc, cibole!
Non, je pense que tuer ta famille, c'est un peu plus moralement indéfendable.
Ben, moi, je trouvais qu'il avait raison d'avoir fait ça. Il était pas pour écrire un livre qui disait le contraire s'il pensait qu'il était coupable.
Mais je veux dire...
Je comprends pas ce qui était moralement indéfendable dans cette histoire-là.
Y a-tu menti ou il a donné le fusil puis il l'a regardé se tirer dans le pied à répétition?
Ben, les deux. Les deux dans le sens de il a donné le fusil puis il l'a regardé se tirer dans le pied en disant c'est pas des vraies balles, c'est pas des vraies balles. C'est à peu près ça, là, tu sais. En tout cas, fait que c'était moralement indéfensible.
Wow.
Voilà.
Wow.
Merci beaucoup. C'est disponible partout. Et je ne suis pas payée par ce podcast. Bon. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette folie qui m'a rendue très fatiguée. Le dodo sera bon ce soir.
Oh oui.
Oui.
Il sera délicieux.
Oui, il sera délicieux. Vous pouvez, comme toujours, nous suivre sur Facebook. Nous sommes là, @unpeudecrime. Et sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Et nous avons aussi une boutique Etsy, un PayPal où vous pouvez nous payer un café.
C'est très gentil, on l'apprécie beaucoup.
On l'apprécie jusqu'à date, il y a une personne qui a fait ça, c'était vraiment fun.
Oui, merci.
Merci beaucoup. Et nous avons aussi un Patreon sur lequel vous pouvez vous abonner. Pour 3 ou 5 ou 10 piastres ou 15 piastres.
15.
Dépendamment de votre budget.
Exactement.
J'ai plus de mots, là, je suis trop fatiguée. Fait que oui, allez voir ça, notre Patreon.
C'est bien spoil.
Patreon.com/ un peu de crime. Il y a des descriptions de tous nos tiers. Donc, les abonnements, c'est un abonnement mensuel. Et il y a des contreparties qui viennent avec ça, y compris des shout-outs en ondes que nous allons faire.
Faire à l'instant.
On est tellement bien organisés. Je ferme l'onglet sur Jeffrey McDonald et le livre de Joe McGinn sur mon téléphone. Et ensuite, j'ouvre le document.
Oh yeah!
Il y a tellement de monde!
Prenez-le pas mal, on va pas tous vous nommer parce qu'il y a deux pages de shout-out.
Ça n'a pas de bon sens!
Ça paraît que ça fait un bout qu'on n'était pas là. Alors merci, Mélijade Bernatché.
Ça part pas bien, là, son enfant. Merci, détail photo. Très fort. Peut-être detail photo, parce qu'il n'y a pas d'accent.
En effet. Merci, Marie-Pierre Cyr.
Merci, Lila Vautel.
Merci, Marianne Alexandra Roy.
Merci, Pierre Harvier Deschamps.
Merci, Vanessa.
Vous avez, fancy, vous avez des beaux noms. Qu'est-ce qui se passe?
Merci, Vanessa.
Merci, Mélodie Roots. Encore quelqu'un qui s'expose. Où vous les avez pris, vos beaux noms?
Merci, Caroline Lahaye.
Merci, Sandrine.
Merci, Marie-Claire.
Merci, Émilie Richard.
Et merci, Marie-Ève Simoncelli.
Merci.
Merci. Pour les autres, on vous a pas oublié. On vous remercie au prochain épisode.
Oui, puis on vous invite, si vous faites partie de nos patrons et que vous êtes abonné à comme 5$ et plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord.
On a du fun!
On a vraiment beaucoup de fun, puis on aime ça jaser avec vous. On est une belle communauté.
Comme là, ce vendredi, on va regarder Twilight.
Puis là, quand l'épisode va être sorti, on va avoir déjà regardé Twilight.
Et on va s'aligner pour regarder le 2.
Voilà, tu fais juste donner du faux mot aux gens. Fait qu'on va regarder Twilight tous ensemble sur Discord.
Exact.
J'ai tellement hâte de chanter les chansons.
Il y a des chansons?
Non, les tunes de la trame sonore. Okay, je me rappelle la trame sonore comme si c'était hier.
Parce que...
Ça m'a tellement marqué.
Pour la petite histoire, malgré le fait que j'ai l'air d'un vampire, je n'ai jamais vu Twilight.
C'est pour ça. Et moi, j'ai trop vu Twilight. J'adorais Twilight. Et maintenant que j'ai beaucoup de recul et plus de maturité, je peux l'avouer, au secondaire, j'avais écrit une super longue fanfiction de Twilight. C'était une de mes premières fanfictions.
Oh wow.
Je vais pouvoir revivre ça en regardant le
film. Je pensais que je vais pas la lire.
Non, mais comme si on se rend à... Il va falloir fixer un montant qui a comme pas d'allure qu'on s'en atteindra jamais. Genre 15 000$ par mois, je vais vous lire ma fanfiction de Twilight. Voilà. Ça va être un contrepartie.
Puis à 20 000, on va vous lire la fanfiction de District 31.
Ça va être excellent. Puis là, quand on va se rendre à 30 000, on va trouver une autre fanfiction qu'on pourrait vous lire.
Écoutez, on va en écrire un autre.
On va en écrire une pour stat. Pour 30 000.
Exact.
Voilà. Et parlant de stats.
Stats.
Quel incroyable segue.
Oh ben.
C'est l'heure de parler des aventures de Lou Béga.
Oui. Que fait-il?
Il fait le mambo numéro 5.
Oh my god.
Dans la salle d'urgence à l'hôpital, ça veut ça.
Oh.
Donc, c'est l'heure des 2 minutes du petit médecin fendant pour nous remettre un sourire d'en face. Avec une histoire concernant laquelle j'ai des opinions.
OK.
OK, j'ai des opinions par rapport
à ça. Correct.
Nigel, tu m'as dit tantôt, tu veux-tu raconter telle affaire? Puis j'ai dit oui.
Oui.
Tu ne doutais pas que j'avais des opinions, hein? J'ai non. des opinions.
Mais t'as toujours des opinions.
Ben, je sais.
T'as des gens... opinions sur le fromage qu'on met dans oui, nos grilled cheese.
Exactement, sur la vidéo de les meilleurs grilled cheese que j'ai écouté l'autre jour. Mais là, j'ai des opinions là-dessus. Fait que allons
c'est correct.
À l'hôpital Saint-Vincent.
Stat, 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 stat.
Fait que là, on est à l'hôpital Saint-Vincent.
Oui, j'avais remarqué, j'ai reconnu les bips. C'est la machine qui fait bip.
C'est les mêmes bips. Et à l'hôpital Saint-Vincent, dans si vous êtes abonné à notre Patreon et que vous avez écouté l'épisode sur la disparition mystérieuse et pas partout si mystérieuse que ça de Tom Thompson, celui qui a peint le Jack Pine, la plus belle peinture du groupe des sept auquel il n'appartenait pas.
Oui, Catherine, elle l'aime tellement, je l'ai fait refaire dans sa cour arrière.
Si bon. En tout cas, fait que si vous avez écouté cet épisode-là à la fin, vous m'avez entendu vous raconter la panique de l'empoisonnement à la ricine de l'hôpital Saint-Vincent. Eh bien, cette histoire est comme entrecoupée d'une autre histoire incroyable, avec une madame dont j'ai oublié le prénom.
Oh non!
Mais je me rappelle son nom de famille parce que ça m'a marqué. Alors, c'est l'histoire de madame qui arrive à l'urgence, pendant qu'il y a la panique de la ricine. La madame s'appelle Madame O'Neill.
Oh yeah!
Oh yeah, Madame O'Neill. Mais elle a comme un prénom très québécois, genre Chantal O'Neill. Tu sais, une belle combinaison.
C'est très classique.
C'est classique, classique. Puis là, Chantal O'Neill, elle arrive. Puis elle se fait parker à Civière, à côté de Stéphane Rousseau, qui est en train de mourir de la ricine.
Oh, monsieur! Mais finalement, il est monsieur correct. Monsieur Rousseau, j'aime votre travail.
Inquiétez-vous pas, il est correct!
Et j'ai quasiment été inquiète.
Oh, on s'inquiète beaucoup pour le highest billing actor de l'émission, ouais. À peu près. Non, non, il est correct! Fait que là... Elle est parquée à Civière à côté. Elle est là parce qu'elle a des gros étourdissements. Elle n'est pas capable de se tenir debout. Puis là, c'est très mystérieux. Ah fait que là, ils font les prises de sang. Puis là, le docteur Faubert arrive et dit « Bonjour, madame, on va te faire un bilan sanguin. » Puis on va te
puis mettre, on va mettre un bolus de 50 cc dans le péteux.
Vois exactement ma joke préférée. Fait que là, attends, on va checker ton bilan sanguin. Puis après ça, on va revenir avec des recommandations. Puis là, ils regardent ça. Puis ils sont comme « Ben, tout est normal. Tu sais, il n'y a pas d'intoxication à rien. On comprend pas trop. On va aller faire passer un IRM, voir ce qui se passe. » Puis là, pendant qu'ils attendent les résultats de l'IRM,
oh my God.
La madame, elle commence à parler avec Stéphane Rousseau. Oh! Puis elle est comme, « Ah, oh, vous, hey, là, ça va pas bien, votre vie. »
Vous étiez bon dans la petite vie.
Oui, vous étiez donc bon, hein, Madame Jagger. Puis là, il dit, « Non, effectivement, ça va pas bien. »
Je suis en train de mourir.
« Je le sens, ça, je le sens parce que moi, j'ai un don de voyance. »
Oh.
Pis là, lui, il est à l'article de la mort. Fait que bien sûr, il est très intéressé par ça.
Oui.
Pis là, il est comme « Non, 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 inquiète-toi pas, tu vas pas mourir de la ricine. » Je pense même pas qu'elle y dit. Pis comme si j'avais été elle, j'y aurais dit en tabarnouche oui. Parce qu'elle savait.
« Je vois l'avenir, tu ne vas pas mourir. »
Voilà. Mais donc,
elle parle pas comme ça, tu vas mourir,
mais
pas comme ça.
Lui, pis là, tu sais, elle sent les énergies, pis il y a des gens qui viennent la voir. Tu sais, comme Suzanne Clément vient la voir, pis là, Jacob, il l'a averti, pis il a dit « Là, là, fais attention, là, parce que la madame, elle a dit qu'elle a un don de voyance. »
Elle va prédire ton avenir.
Mais là, Suzanne Clément, elle arrive à côté, pis comme « Un don de voyance, je ne crois pas à ça. » Pis la madame, elle la regarde, pis elle dit « Ah, oh, vous avez beaucoup de souffrance en vous. » Pis là, t'es comme « Oh, n'importe qui aurait pu deviner ça. » Voilà. Fait que là, tout le monde est « Oh, n'importe qui aurait pu deviner, c'est pas vraiment de la voyance. »
Non!
Sauf Stéphane Rousseau qui prend ça pour du cash. Mais éventuellement, il est... je dirais exporté. Voyons!
Il est transporté dans un hôpital militaire.
Pas exécuté.
Il est ship
out. Il est ship out, là. Oh. Ils l'ont expédié avec UPS, voilà. Là. Voilà. FedEx, direct dans la base militaire de Borden pour aller le soigner avec l'armée, puis la ricine, puis tout.
Puis le beau monsieur.
Puis le beau monsieur, le beau docteur. Qui ressemble à Henry Cavill. Fait que là, pendant ce temps-là, les résultats de l'IRM reviennent. Puis là, Jacob Faubert va voir la madame, puis il dit, je vais faire ma meilleure voix de Jacob Faubert. Madame, je suis vraiment désolée de vous apprendre ça, mais vous avez une tumeur en avant de votre cerveau.
Oh non!
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment facile à opérer. Puis là, elle est comme, oh, en avant de mon cerveau, mais en avant de mon cerveau,
c'est mon troisième
œil. C'est là qu'il y a le troisième œil. Puis là, entre-temps, elle capotait parce que quand ils ont injecté le liquide pour que tes vaisseaux sanguins apparaissent plus oui. Là, sur le scan, là, ben là, elle avait perdu son don de voyance. Puis là, Jacob, il disait, il n'y a jamais personne qui a dit qu'il avait perdu son don de voyance à cause de ça. Fait qu'on ne sait pas si c'est vrai. Puis elle était comme, non, mais je vous le dis que c'est vrai.
Il n'y a pas des études là-dessus.
Puis là, elle disait, s'il vous plaît, tu sais, vérifiez comment faire pour me le redonner. Puis elle était comme, oui, bien sûr, madame,
oui, je vais taper vérifier dans ça. Google.
Ben là, puis là, il sortait.
Cliquette-ci, cliquette-là.
Tu sais, il sortait de l'urgence, puis il roulait des yeux, là. Puis j'étais comme, ben là, beau madame, elle a l'air en détresse, là. Regarde, c'est ça mes opinions sur le don de voyance. Bon. Moi, j'y crois à son don de voyance. Fait que là, là, c'est tout le monde tag team. On convainc la madame de se faire opérer parce qu'elle veut pas se faire opérer sa tumeur, qui est mortelle, on s'entend. C'est une grosse tumeur dans le cerveau qui fait qu'elle peut pas se lever debout. Bon. Fait qu'elle veut pas se faire opérer parce que c'est vis-à-vis son troisième œil. Fait que là, il envoie Normand Amour, qui est l'oncologue, puis il est comme, oui, madame, vous avez une tumeur au cerveau. Faudrait l'enlever. Puis elle est comme, non, mon troisième œil. Puis après ça, il envoie
Delphine,
la travailleuse sociale. Puis là, elle est comme, non, mais tu sais, madame, peut-être ça pourrait faire du bien de faire enlever votre grosse tumeur dans votre cerveau. Peut-être que vous pourriez, tu sais, parce qu'elle dit, oh, la madame
expand
a dit...
Expand your mind! Ah!
And the rest will follow, be colorblind, don't be so shallow. Bon, mais non, elle lui dit, tu sais, mais là, il faudrait prendre une décision. Puis la madame dit, oh, mais je peux pas prendre une décision parce que j'ai pas mon don de voyance, puis c'est là-dessus que je me base pour prendre des décisions. Puis elle dit, oh, mais tu sais, vous pouvez
vous demander
comme,
au cheval.
Faites confiance à, tu sais, c'est quasiment comme, listen to your heart, c'était quasiment ça, là. Ou comme la fin dans Pocahontas, là,
The color of the wind.
Non! Écoute avec ton cœur, là.
Ah oui, l'arbre.
Oui, c'est ça, le soul. Bon, c'est ça qu'elle dit. Le soul arrive, puis elle dit ça. Puis la madame a dit, ah, oh, c'est vrai, peut-être que je devrais me faire opérer. Puis
là, c'est la dernière chose. Je suis en train d'halluciner qu'il y a un arbre qui me parle.
Oui, écoute dans ton cœur, tu vas tout comprendre. Hey, sérieux, j'ai eu une épiphanie sur Pocahontas cette semaine. Je savais pas que c'était à cause de ça que Pocahontas était capable de parler avec John Smith. Parce que le soul leur disait de s'écouter dans leur cœur.
Ouais.
Ça brisait la barrière de la langue.
Ça aidait Mel Gibson à être moins raciste.
Ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, fait que là, la madame finit par dire « Ok, j'écoute dans mon cœur comme a dit grand-mère soul. » Et les Roxette. « Je vais accepter de me faire opérer. » Puis là, jusqu'à date, c'est là qu'on t'est rendu parce que j'ai pas écouté l'épisode d'asseoir. C'est de ta faute.
Excusez.
Quoi?
Je vais aller me flageller.
Ben, c'est ça. Mais là, moi, là, mon opinion, OK? Ma opinion. Voilà. Je m'excuse, mais pourquoi il y a personne qui a juste assis la madame puis qui a dit, madame, vous avez possiblement un cancer du troisième œil. Pour vous opérer, pour ôter votre cancer dans votre troisième œil, puis votre don de voyance va probablement revenir. Pourquoi il y a personne qui a pensé à ça? C'est comme la première fois
qu'elle a parlé... Parce qu'on a besoin de toi, là!
Vous avez besoin de moi pour écrire Stats,
les autres, ils pensent trop dans la boîte. Toi, tu penses en dehors de la boîte.
Mais là, je me disais, OK, peut-être les médecins, il y a quelque chose dans leur code de déontologie qui font qu'ils n'ont pas le droit de dire une affaire de même parce que c'est pas de l'information médicale pour vrai.
Non, peut-être, ouais.
Mais la travailleuse sociale! C'est bien beau qu'elle a réussi à la convaincre, là. Parce que, je veux dire, elle convainc tout le monde de tout. Delphine Martin,
ben
c'est
oui,
pas mal la Mary Sue de l'émission.
Parce qu'elle a tellement une voix calme.
Ah, parce qu'elle est tellement belle, Virginie Rangé vous regarde. Mais non, mais je me suis dit, la travailleuse sociale aurait pu faire ça, pourquoi personne n'a eu cette discussion? Tu sais, tant qu'elle y est, là, OK? Entertain the idea pendant une seconde qu'elle avait un don de voyance pour vrai, cette madame-là, là, OK? Comme, mets de côté tes convictions médicales, Jacob Faubert, là. Ça pourrait être une hypothèse intéressante, là. T'as un cancer du troisième œil.
Il faut qu'on l'opère. Tu sais, hein?
Ça va pas enlever ton troisième œil, ça va enlever le cancer dans ton troisième œil.
Comme ça.
Pourquoi y'a personne qui a pensé à ça? Pourquoi y'a juste moi qui a pensé à ça? Je crois même pas à ça, le troisième œil. En tout cas, fait que c'était ma opinion. Puis là, va-t-elle se faire opérer le troisième œil pour vrai?
À suivre.
Mais quand on a vu la madame qui prenait sa décision puis qui disait « Ah oui, je vais me faire opérer le troisième œil. » Parce que il faut que je fasse confiance à la vie.
Exactement.
J'ai dit à mon chum, « Ah, watch bien si elle meurt, est-ce qu'ils vont se sentir mal? » Mon chum était comme, « Mon Dieu, t'es donc bien savage. »
T'es donc bien downer plata.
Oui, absolument. Mon chum était comme, « Yee, t'as pas j'étais comme, « J'espère qu'elle mourra pas. »
Keep it light in the comment section.
Oui, mais c'est ça. Je me suis dit, « Yee, t'es pas gazé, si tout le monde dit, fais-toi opérer, comme ça tu mourras pas. » Puis qu'elle meurt, ils vont tous se sentir mal d'y avoir ôté son don de voyance.
Et sa vie.
Elle va revenir les hanter. Voilà.
Puis là, ça va devenir un hôpital hanté, puis ça va être bien funky funk. Featuring Pierre-Luc Funk.
Pierre-Luc Funk, exactement. J'essayais de trouver une façon de plugger Pierre-Luc Funk dans cette joke. Alors, c'est la fin de l'histoire de Stats.
Wow.
De Jacob Faubert.
Je voyais que la fin, elle s'emmenait avec mon troisième œil.
Oui, c'est parce que t'as pas fait le truc qui t'injecte dans tes veines pour enlever le don.
Non, j'ai refusé. Mm-mm. Les vaccins, ça donne des queues de souris.
Non, dis pas ça! Guy Podolaine, sors pas de ce corps!
Je suis une cheval, je suis un cheval ailé!
Un poulet chaîné! Non, c'est ça, les moutons qui font ce bruit-là!
Non, les moutons, ça fait
ben, c'est ça.
Et moi, j'ai fait...
Ah, ok, excusez. Non, les poulets, ça fait nez.
Hey, même ton fils, il connaît mieux ça.
Hey, je suis pas capable d'imiter les chevaux, d'accord?
Bon.
Pendant le plus long temps, je lui disais que le cheval faisait i-an, parce que je suis pas capable de faire un bruit de cheval.
T'as mélangé ton fils.
Je sais. Il pensait que les chevaux faisaient i-an.
T'as mis sa carrière universitaire in jeopardy.
Ben, je sais, ben, il va arriver là-bas, puis on va lui dire, mon Dieu. En quoi se transforment les petits-enfants dans Pinocchio, puis il va dire, en chevaux?
En chevaux, bien entendu.
Parce qu'ils font i-an, et il va perdre son PhD. Et sa bourse.
Et oui.
À Harvard.
Oui, exactement.
Bon, voilà. Cette joke a assez erroné, cet épisode aussi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se voit la prochaine fois.
Merci, avec mon troisième œil, je vois que dans 2 semaines, il va y avoir un autre épisode.
Ah! Qui va pas seulement parler...
Oh, pas le clan!
Ouais, la chose que je suis pas capable de prononcer, le clan.
Mais il mérite pas qu'on fasse d'efforts, anyway.
Mais pourquoi ça s'écrit de même? Moi, j'ai tellement de questions. Pour ça me prend du temps à écrire mes cas. Parce que toutes les questions que je te pose pendant que tu fais tes...
Tu les poses à toi-même?
Moi, je les pose à moi-même. Pourquoi ça s'appelle Kuklux?
Kuklux.
Pourquoi ça s'appelle Kuklux avec des cas?
Ben là, écoute, les gens, ils vont te répondre dans les commentaires. On a toujours quelqu'un qui a la réponse.
Écrivez-moi là, je vais pouvoir le mettre dans mon cas. Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup, Steph.
Merci, Steph.